Chapitre 8. Tandis que se déroulaient tous ces mouvements de troupes, que les grandes armadas d'aéronefs d'un noir mat perçaient de trous le continuum spatio-temporel du cosmos, au moment précis où l'on envoyait le grand inquisiteur de l'Église sur Mars hanté par le Gritch, et où le PDG de Mercantilus se rendait seul à un rendez-vous secret avec un interlocuteur non humain dans les profondeurs de l'espace, j'étais couché impuissant dans un lit, le dos et le ventre déchirés par une douleur atroce. La souffrance est une chose intéressante et peu ragoûtante. Peu de choses dans la vie concentrent notre attention aussi totalement, aussi terriblement, et il en est peu dont la description orale ou écrite soit aussi ennuyeuse. Cette douleur absorbait toutes mes facultés. Son caractère implacable, la maîtrise qu'elle exerçait sur mon esprit, m'emplissait de stupéfaction. Durant les heures que je venais d'endurer et qu'il me restait encore à souffrir, je tentais de me concentrer sur mon environnement, de penser à autre chose, de communiquer avec les gens qui m'entouraient, et même de réciter tout bas de simples tables de multiplication, mais la douleur coulait dans tous les compartiments de ma conscience comme de l'acier fondu dans les fissures d'un creuset fêlé. Voilà ce dont je fus vaguement conscient ce jour-là. J'étais sur un monde que mon père Soc avait identifié comme Vitus Grey Balianus B, et je puisais l'eau d'un puits lorsque la douleur m'avait abattu. Tandis que je me tordais dans la poussière, une femme drapée dans un peignoir bleu, les ongles de ses orteils visiblement bleus dans ses sandales découpées, appela d'autres personnes vêtues de la même couleur, et elles me transportèrent jusqu'à la maison en adobe où je continuais à lutter contre la douleur, couché dans un lit moelleux. Il y avait plusieurs autres personnes dans la maison. Une femme en bleu, coiffée d'un foulard, un homme plus jeune portant toge bleue et turban, et au moins deux enfants aussi habillés en bleu. Et ces gens généreux non seulement supportèrent les excuses bafouillées et les gémissements moins articulés que je proférais en me tordant de douleur, mais encore ne cessèrent de me parler, de me tapoter les mains et de me mettre des compresses mouillées sur le front. Ils m'ôtèrent mes bottes, mes chaussettes et ma veste et continuèrent à me chuchoter des paroles de réconfort dans leur dialecte mélodieux tandis que je tentais de garder ma dignité malgré les assauts que l'atroce souffrance me livrait dans le dos et l'abdomen. Plusieurs heures après qu'ils m'eurent amené chez eux, par la fenêtre je vis que le ciel bleu avait tourné au rose vespéral, la femme qui m'avait trouvé près du puits dit
« Citoyen, nous avons demandé son aide au prêtre missionnaire du coin, et il est parti chercher le médecin de la base de la Pax à Bombassino. Pour une raison que nous ignorons, les glisseurs de la Pax et les autres avions sont tous occupés ailleurs. Aussi le prêtre et le médecin vont être obligés de descendre la rivière sur une cinquantaine de pulls. Mais avec de la chance, ils seront ici avant le lever du soleil. »
Je ne savais pas combien mesurait un pull et combien il faudrait de temps pour en parcourir 50, ou même combien d'heures durerait la nuit sur ce monde. Mais l'idée que ma douleur puisse prendre fin suffit à me faire monter les larmes aux yeux. Néanmoins, je chuchotais
« Je vous en prie, madame, pas de médecin de la Pax. »
La femme posa ses doigts froids sur mon front.
« Il le faut. Il n'y a plus de médic ici, à Lockchild de la Monde. Sans secours médical, vous allez mourir, nous le craignons. »
Je gémis et m'écartai d'elle en me convulsant. La douleur me traversait comme un fil de fer brûlant sur lequel on aurait tiré pour qu'il passe dans des capillaires trop étroits. J'avais conscience qu'un médecin de la Pax saurait aussitôt que je venais d'un autre monde, me dénoncerait à la police ou à l'armée de la Pax, si le prêtre missionnaire ne l'avait pas déjà fait, et je serais certainement interrogé et emprisonné. Ma mission en faveur d'aînés prenait prématurément fin, et c'était un échec. Quand le vieux poète Martin Silenus m'avait embarqué dans cette odyssée, 4 ans et demi standard plus tôt, il avait bu du champagne avec moi et portait un toast au héros. Si seulement il avait su combien ce toast était loin de la réalité. Peut-être l'avait-il su. La nuit s'écoula avec une lenteur glaciale. À plusieurs reprises, les deux femmes me rendirent visite et des enfants en peignoir bleu, sans doute des vêtements de nuit, vinrent parfois, du couloir sans lumière, jeter un coup d'œil dans ma chambre. Ils étaient tête nue et je vis que la petite fille était coiffée presque comme aînée lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois. Elle avait alors 12 ans et moi 28 ans standard. Le petit garçon, plus jeune que la fille, sans doute sa sœur, était d'une extrême pâleur. Sa tête rasée semblait chauve. Chaque fois qu'il regardait dans ma chambre, il agitait les doigts en un salut timide. Entre les vagues de douleur, je lui rendais faiblement son salut, mais chaque fois que j'ouvrais les yeux pour le revoir, l'enfant était parti. Le soleil se leva et se coucha sans que le médecin arrivât. Le désespoir refluait en moi comme une marée descendante. Je ne pouvais plus résister une heure de plus à cette terrible douleur. Je savais d'instinct que si les gentils habitants de cette maison avaient possédé un analgésique, ils me l'auraient donné depuis longtemps. J'avais passé la nuit à essayer de me souvenir de ce que j'avais emporté avec moi dans le kayak, mais ma trousse ne contenait qu'un désinfectant et de l'aspirine. Je savais que cette dernière ne ferait rien contre ce rat de marée de souffrance. Je décidai que je pouvais encore tenir 10 minutes. On m'avait ôté mon persoc, maintenant posé bien en vue sur un rebord en adobe près du lit, mais je n'avais pas pensé à mesurer grâce à lui les heures de la nuit. Je me débattis pour m'en emparer tandis que la douleur se tordait en moi comme un fil de fer brûlant et je remis le bracelet à mon poignet. Je chuchotai à l'IA du vaisseau. « Est-ce que la fonction du biomoniteur est encore activée ?»«
Oui, »
répondit le bracelet.
« Est-ce que je suis mourant ?»«
Les signaux vitaux ne sont pas critiques, » répondit le vaisseau de son ton monotone habituel. « Mais vous semblez être en état de choc. La tension artérielle ?»
Il continua à cliqueter des informations techniques jusqu'à ce que je lui dise de se taire.
« Avez-vous réussi à identifier ce qui me met dans cet état »
haletais-je. Des vagues de nausées suivirent la douleur. J'avais depuis longtemps vomi tout ce qui se trouvait dans mon estomac, mais le haut le cœur me plia en deux.
« Ce n'est pas incompatible avec une crise d'appendicite, » dit le persoc.
« Une appendicite ? »
On avait depuis longtemps débarrassé génétiquement l'humanité de ses organes inutiles.
« Ai-je un appendice ?»
chuchotais-je au bracelet. Avec le lever du soleil, le bruissement des peignoirs avait repris dans la maison et plusieurs femmes étaient venues me voir.
« Négatif, » dit le persoc, « c'est fort improbable à moins que vous ne soyez un mutant génétique. Les chances ne... »
« Silence !» sifflai-je.
Les deux femmes en peignoir bleu entrèrent d'un air affairé avec une troisième, plus grande, plus mince, visiblement native d'un autre monde. Elle portait une combinaison noire avec la croix et le caducée du corps médical de la flotte sur son épaule gauche.
« Je suis le docteur Molina, »
dit-elle en ouvrant un petit sac noir.
« Tous les glisseurs de la base font des manœuvres et j'ai dû prendre un Fitzer sur la rivière avec le jeune homme qui est venu me chercher. »
Elle posa un timbre diagnostique adhésif sur ma poitrine nue et un autre sur mon ventre.
« Mais n'allez pas croire que j'ai fait tout ce chemin pour vous. » L'un des glisseurs de la base s'est écrasé près de Keroatampat, à 80 clics au sud d'ici, et je dois aller soigner les blessés de l'équipage en attendant l'intervention médicale. Rien de sérieux, juste des meurtrissures et une jambe cassée. La flotte n'avait pas envie d'enlever un glisseur aux manœuvres rien que pour ça.
Elle sortit de la valise un appareil pas plus grand que la paume de la main et vérifia qu'il recevait bien les informations des timbres.
Si vous êtes l'un de ces spatiaux du Mercantilus qui ont déserté d'un vaisseau au port il y a quelques semaines,
continua-t-elle,
ne vous imaginez pas que vous allez me voler des médicaments ou de l'argent. Je voyage avec deux hommes de la sécurité qui sont restés deux gardes à la porte.
Elle mit son casque.
Bon, qu'est-ce qui ne va pas, jeune homme ?
Je secouai la tête, grinçant des dents contre le flot de douleur qui me déchirait le dos.
Quand je le pus, je dis : Je l'ignore, docteur. « J'ai mal dans le dos. Et des nausées. »
Elle m'ignora pendant qu'elle regardait le petit appareil. Brusquement, elle se pencha vers moi et me tâta l'abdomen du côté gauche.
« Ça vous fait mal, là ?»
Je faillis crier.
« Oui !»
répondis-je lorsque je pus parler. Elle hocha la tête et se tourna vers la femme en bleu qui m'avait sauvé.
« Dites au prêtre qui m'a amené d'apporter le grand sac. » Cet homme est complètement déshydraté. Il faut installer une perfusion. Après, je lui administrerai de l'ultramorphine.
Je me rendis compte alors d'une chose que je savais depuis qu'enfant, j'avais vu ma mère mourir d'un cancer. Idéologie et ambition, pensée et émotion, tout s'efface devant la douleur et devant les moyens d'y échapper. J'aurais fait n'importe quoi pour ce médecin de la flotte de la Pax bavarde et bourrue.
« Qu'est-ce que j'ai ?»
demandai-je tandis qu'elle installait le flacon et les tuyaux.
« Quelle est la cause de cette douleur ?»
Elle tenait une seringue à l'ancienne mode, terminée par une aiguille, et aspirait le contenu d'un petit flacon d'ultramorphine. Si elle m'avait dit que j'avais contracté une maladie mortelle et que je m'éteindrais avant la tombée de la nuit, cela m'aurait été égal du moment qu'elle me faisait cette piqûre d'analgésique.
« Un calcul rénal !» répondit le docteur Molina.
Je dus montrer mon incompréhension car elle poursuivit.
« Une petite pierre dans votre rein, trop grosse pour passer par l'urètre, probablement faite de calcium. Aviez-vous du mal à uriner ces derniers jours ?»
Je repensais au début du voyage. Je n'avais pas bu assez d'eau et avais donc attribué cela à ma difficulté à uriner et la douleur que j'éprouvais parfois à cette occasion.
« Oui, mais... » « Un calcul rénal !»
répéta-t-elle en me transperçant le poignet gauche.
« Une petite piqûre !»
Elle inséra l'aiguille intraveineuse et la maintint en place avec du thermoplaste. La douleur de la piqûre se perdit totalement dans la cacophonie de mes souffrances. Le médecin tripota pendant un moment l'intraveineuse et fixa la seringue à un prolongement du tuyau.
« Il faut environ une minute avant que ça agisse, » dit-elle. « Mais cela devrait éliminer la gêne. »
« La gêne. » Je fermai les yeux afin que personne ne puisse y voir mes larmes de soulagement. La femme qui m'avait trouvé près du puits me prit la main. Une minute s'écoula, puis la douleur commença à refluer. Aucune absence n'avait jamais été si bienvenue. C'était comme si l'on avait étouffé un grand et terrible bruit afin que je puisse enfin penser. Je redevins moi-même lorsque l'atroce douleur ressembla à celle que j'avais ressentie après un coup de couteau ou la fracture d'un membre. Celle-là, je pouvais la supporter et garder ma dignité et le sens de mon moi. La femme en bleu caressait mon poignet lorsque l'ultramorphine fit son effet.
« Merci, »
dis-je entre mes lèvres gercées, parcheminées, en lui serrant la main.
« Et merci aussi à vous, docteur Molina. »
Le médecin se pencha vers moi et me tapota doucement la joue.
« Vous allez dormir. Mais il me faut d'abord quelques réponses. Ne vous endormez pas avant de m'avoir parlé. »
Je hochai faiblement la tête.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Roland Dimion. » Je me rendis compte que je ne pouvais pas lui mentir. Elle avait dû mettre du Divray ou une autre drogue dans la perfusion.
« D'où venez-vous, Roland Dimion ? »
Elle tenait l'appareil à diagnostic dirigé vers moi comme un magnétophone.
« D'Hyperion, du continent d'Aquila. Mon clan est...
« Comment êtes-vous arrivé à Lochchai de la Monde sur Vitus Grey Balianus B, Roll ? Êtes-vous l'un des spatiaux qui ont quitté sans permission un cargo du Mercantilus le mois dernier ?»«
En kayak, »
m'entendis-je répondre tandis que tout commençait à me paraître lointain. Une grande chaleur m'envahit presque indiscernable du soulagement qui montait en moi.
« J'ai descendu la rivière en kayak, » bafouillai-je. « Par le Distrance, non, je ne suis pas l'un des spatiaux. »«
Le Distrance ?»
répéta le médecin d'une voix perplexe.
« Que voulez-vous dire, Roland Dimion, en parlant de Distrance ?»«
Que vous l'avez franchi en pagayant, comme nous le faisons ?»« Que vous êtes juste passé dessous en descendant la rivière ?»«
Non, je suis arrivé par le Distrance, en provenance d'un autre monde. »
Le médecin jeta un coup d'œil à la femme en bleu, puis revint à moi.
« Vous êtes venu d'un autre monde par le Distrance. Vous voulez dire qu'il a fonctionné ? Qu'il vous a distranslaté ici ?»«
Oui. »«
D'où veniez-vous ? »
demanda-t-elle en me tâtant le pouls de la main gauche.
« De l'ancienne Terre. Je viens de la Terre. »
Je flottais, béatement libre de toute douleur, pendant que le médecin sortait dans le couloir pour s'entretenir avec les dames. J'entendis des bribes de leur conversation.
visible qu'il est mentalement déséquilibré,
dit la voix du médecin.
Il n'a pas pu venir par le... Il délire à propos de l'ancienne Terre. Peut-être l'un des spatiaux drogués.
Contente qu'il reste,
dit la femme en peignoir bleu.
Je prendrai soin de lui jusqu'à ce que...
Le prêtre et l'un des gardes resteront ici,
dit le médecin.
Quand le glisseur des Vakmed arrivera à Kerouac-en-Bat, nous ferons escale ici pour le prendre avant de rejoindre la base. Demain ou après-demain. Ne le laissez pas partir. La police militaire voudra sûrement.
Flottant sur la crête montante de la béatitude provoquée par l'absence de douleur, je cessai de lutter contre le courant et me laissai emporter en aval jusque dans les bras que me tendait la morphine. Je rêvais d'une conversation qu'Aîné et moi avions eue quelques mois auparavant. C'était par une froide nuit d'été de haut plateau désertique. Assis dans le vestibule de son abri, nous buvions du thé et regardions les étoiles apparaître. Nous discutions de la Pax, mais à chacune de mes remarques négatives, Aîné apportait un argument positif. Pour finir, je me mis en colère.
« Écoute, dis-je, tu parles de la Pax comme si elle n'essayait pas de te capturer et de te tuer. Comme si les vaisseaux de sa flotte ne nous avaient pas poursuivis jusqu'au milieu du bras spiral et ne nous avaient pas abattus sur le vecteur Renaissance. S'il n'y avait pas eu le distrans...
« Ce n'est pas la Pax qui nous a poursuivis, nous a tirés dessus et a essayé de nous tuer, »
dit la jeune fille d'une voix douce.
« Seulement quelques éléments de la Pax, des hommes et des femmes qui suivaient les ordres du Vatican ou d'ailleurs. »«
Bon, »
dis-je exaspéré et irrité, « ce sont seulement des éléments de la Pax qui nous ont tirés dessus et ont tués. » Je m'arrêtai durant une seconde. « Que veux-tu dire par du Vatican ou d'ailleurs ?» Crois-tu que les ordres sont donnés par d'autres? D'autres que le Vatican, je veux dire?
Aîné haussa les épaules. C'était un geste gracieux, mais extrêmement irritant. L'un des moins attachants de ses comportements, les moins attachants d'adolescente.
Y en a-t-il d'autres?
Demandai-je d'un ton plus acerbe que celui que j'adoptais généralement pour parler à ma jeune amie.
Il y en a toujours d'autres,
répliqua tranquillement Aîné.
Ils avaient raison d'essayer de me capturer, Roll, ou de me tuer.
Dans mon rêve, comme dans la réalité, je posais ma tasse de thé sur les assises en pierre du vestibule et la regardais fixement.
Tu es en train de dire que toi et moi aurions dû être capturés et tués, comme des animaux, qu'ils avaient le droit de le faire.
Bien sûr que non.
Répondit la jeune fille en croisant les bras, tandis que le thé fumait dans l'air froid de la nuit.
« Je dis que la Pax a raison, de son point de vue, d'utiliser des moyens extraordinaires pour essayer de m'arrêter. »
Je secouai la tête. « Je ne t'ai rien entendu dire, ma grande, qui fut assez subversif pour justifier l'envoi d'escadrons d'aéronefs contre toi. En réalité, la chose la plus subversive et la plus hérétique que je t'ai entendu proférer, c'est que l'amour est une force fondamentale de l'univers au même titre que la gravité ou l'électromagnétisme. C'est seulement...
Des conneries?
Des paroles trompeuses.
Aîné sourit et passa les doigts dans ses cheveux courts.
Roll, mon ami. Ce n'est pas ce que je dis qui constitue un danger pour eux. C'est ce que je fais. Ce que j'enseigne en touchant.
Je la regardais. J'avais presque oublié tout ce baratin sur celle qui enseigne que son oncle Martin Silenus intégra à ses cantos épiques. Aîné devait être le Messie dont le vieux prophète avait prophétisé la venue dans son long poème confus deux siècles auparavant. C'est du moins ce qu'il m'avait dit. Jusqu'ici, j'avais vu très peu de choses qui auraient pu suggérer quel était ce Messie, sauf son passage par le Sphinx, l'un des tombeaux du temps, et le désir de la capturer ou de la tuer qui semblait obséder la Pax. Le désir de me tuer moi aussi puisque j'étais son gardien pendant le rude voyage jusqu'à l'ancienne terre.
Je ne t'ai pas entendu enseigner grand-chose d'hérétique ou de dangereux,
répétai-je d'un ton presque maussade,
ni vu faire quelque chose qui constitue une menace pour la Pax.
Je montrai d'un geste la nuit, le désert, et au loin les lumières des bâtiments de la confrérie taliésine, et maintenant, dans mon rêve d'ultramorphine qui était plus un souvenir qu'un rêve, Je me regardais faire ce geste comme si j'épiais depuis les ténèbres entourant l'abri éclairé. Aîné secoua la tête et sirota son thé.
« Tu ne comprends pas, Rol. Mais eux, si. Déjà, ils me traitent de virus. Ils ont raison. C'est exactement ce que je pourrais être pour l'Église. Un virus, comme le sida de l'ancienne Terre, ou la mort rouge qui ravagea les confins après la chute. Un virus qui envahit chaque cellule de l'organisme et reprogramme l'ADN à l'intérieur de ces cellules. Ou du moins, infecte assez de cellules pour que l'organisme tombe, s'affaiblisse et meure. »
Dans mon rêve, je descendais en piqué au-dessus de l'abri de toile et de pierre d'aîné comme un faucon dans la nuit, tournoyant bien haut au milieu des étoiles étrangères du ciel de l'ancienne Terre, et je nous voyais, la jeune fille et l'homme, assis à la lumière de la lampe à pétrole du vestibule, comme des âmes perdues sur un monde perdu. Ce que, précisément, nous étions. Pendant les 2 jours suivants, je dérivais, quittant et retrouvant la douleur et la conscience comme une yole dont on a coupé les amarres flotte sur l'océan, en passant de rafales de pluie en nappes de soleil. Je buvais de grandes quantités d'eau que les femmes en bleu m'apportaient dans des verres à pied. Je me rendais en clopinant dans les toilettes et urinais à travers un filtre qui aurait dû retenir la pierre, cause de mon supplice intermittent. Pas de pierre. Chaque fois, je retournais me coucher en boitillant et attendait que la douleur recommence. Elle ne manquait jamais de le faire. Même à l'époque, je me rendais compte que cela n'avait rien d'un épisode héroïque. Avant que le médecin nous quitte pour reprendre sa descente de la rivière vers le lieu où s'était écrasé le glisseur, on m'avertit que le garde de la Pax et le prêtre du coin disposaient d'unités com et lanceraient un appel radio à la base si je provoquais un ennui quelconque. Le docteur Molina m'expliqua combien ce serait mauvais pour moi si le commandant de la flotte devait soustraire un glisseur à ses jeux militaires juste pour aller quérir un prisonnier plus tôt que prévu. En attendant, dit-elle, continuez à boire beaucoup d'eau et à pisser chaque fois que vous le pourrez. Si je n'éliminais pas le calcul, elle devrait m'emmener à l'infirmerie de la prison et le dissoudre aux ultrasons. Elle laissa 4 doses d'ultramorphine à la femme en bleu et partit sans dire au revoir. Le garde, un lusien d'âge mûr qui devait peser 2 fois plus que moi, armé d'un pistolet à fléchette dans son holster et d'un bâton neural de contention à la ceinture, me regarda d'un air courroucé et retourna monter la garde à la porte principale. Il faudrait que je cesse d'appeler la maîtresse de maison la femme en bleu. Pendant les premières heures de mon supplice, elle n'avait été que cela pour moi, outre mon sauveur bien sûr, mais l'après-midi de mon premier jour chez elle, j'appris que son nom était Dem Ria, que sa partenaire primaire de mariage était l'autre femme, Dem Loa, que le 3e membre de ce ménage tripartite était l'homme beaucoup plus jeune, appelé Alem Mikhail Dem Alem, que l'adolescente était Cess Ambre, la fille d'une précédente union trine d'Alem, que le petit garçon pâle sans cheveux, qui semblait avoir 8 années standard, s'appelait Bin Ria Dem Loa Alem, que c'était l'enfant des conjoints actuels, mais le rejeton biologique de laquelle des 2 femmes, je ne le découvris jamais, et qu'il se mourait d'un cancer.
« L'ancien médic de notre bourgade, il est mort le mois dernier et n'a pas été remplacé. A envoyé Bin l'hiver dernier à notre hôpital de Keroa Tambat, mais ils ont seulement pu lui administrer une chimiothérapie, lui faire des rayons. Et croisez les doigts, »
dit Dem Ria lorsqu'elle vint s'asseoir à mon chevet cet après-midi-là. Dem Loa était installée non loin sur une autre chaise à dossier droit. J'avais posé des questions sur le petit garçon pour que la conversation ne porte pas sur mes propres problèmes. Les peignoirs élaborés des femmes gardaient leur vive teinte bleu cobalt, bien que le soleil derrière elles teinta les murs en adobe d'un rouge aussi épais que le sang. Les rideaux de dentelle découpaient la lumière et les ombres en zones négatives complexes. Nous bavardions dans les intervalles où la douleur me laissait tranquille. Je souffrais du dos comme si quelqu'un m'avait frappé avec une lourde massue, mais c'était une douleur sourde comparée à celle atroce et brûlante que la pierre provoquait lorsqu'elle se déplaçait. Le médecin avait dit que la douleur était un bon signe, que le calcul bougeait quand il me faisait le plus mal. et le supplice semblait se centrer maintenant plus bas dans mon abdomen. Mais elle avait dit aussi que son élimination pouvait prendre des mois, même s'il était assez petit pour passer par les voies naturelles. Beaucoup de calculs, dit-elle, devaient être réduits en morceaux ou ôtés chirurgicalement. Je me forçais à repenser à la santé de l'enfant dont nous étions en train de parler. « Des rayons et une chimiothérapie », répétais-je, grimaçant ces mots avec dégoût. C'était comme si Demria disait que les médics avaient prescrit des sangsues et du mercure au petit garçon. L'hégémonie savait soigner le cancer, mais après la chute, on avait perdu la plus grande partie des connaissances et de la technologie des manipulations génétiques. Et ce que l'on n'avait pas perdu était trop coûteux pour être dispensé aux masses après la disparition définitive du RETS. Le Mercantilus de la Pax transportait des marchandises et des matières premières d'étoile en étoile, mais c'était un processus lent, coûteux et limité. La médecine avait régressé de plusieurs siècles. Ma propre mère était morte du cancer après avoir refusé les rayons et la chimiothérapie qu'on lui proposa lorsque le diagnostic fut établi par la clinique de la Pax de Mours. Mais pourquoi guérir une maladie mortelle alors qu'on pouvait s'en sortir en mourant et en ressuscitant grâce au cruciforme? Même les maladies transmises génétiquement étaient guéries par le cruciforme pendant la régénération du corps. Et la mort, comme l'Église le faisait constamment remarquer, était autant un sacrement qu'une résurrection. Elle pouvait être offerte comme une prière. Toute personne pouvait maintenant participer, par la douleur et le désespoir de la maladie et de la mort, à la gloire du sacrifice rédempteur du Christ, à condition de porter un cruciforme. Je m'éclaircis la gorge. Bin n'a pas... Je veux dire... Quand le petit garçon m'avait fait un signe de la main cette nuit, son peignoir ample avait révélé une poitrine pâle dépourvue de croix. Demloa fit un signe de tête. Le capuchon bleu de son peignoir était en tissu translucide, semblable à de la soie.
Aucun de nous n'a accepté la croix. Mais le père Clifton a été convaincant.
Je ne pus que hocher la tête. La douleur dans mon dos et dans mon bas-ventre recommençait à parcourir mes veines comme un courant électrique. Je devrais expliquer pourquoi les citoyens de Lochchild-Lamonde, sur la planète Vitus Grey Balienus B, portaient des peignoirs de différentes couleurs. Demria m'avait confié, en chuchotant d'une manière mélodique, que la plupart des gens vivant sur les bords de la longue rivière étaient venus, un peu plus d'un siècle auparavant, du système solaire voisin Lacaille 9352. Ce monde, appelé d'abord l'amertume de Sibiatus, venait d'être recolonisé par des fanatiques religieux de la Pax qui le renommèrent grâce inévitable et firent du prosélytisme au sein des groupes indigènes qui avaient survécu à la chute. Celui de Demria, dont la culture mesurée, pleine de philosophie, mettait l'accent sur la coopération, décida d'émigrer pour échapper à la conversion. 27 000 membres de son peuple dépensèrent leur argent et risquèrent leur vie pour remettre en état un vaisseau d'ensemencement de l'ancienne Égire et transporter tout le monde, hommes, femmes, enfants, animaux favoris et bétail, au cours d'un voyage en sommeil froid de 49 ans sur leur voisine, Vitus Grey Balienus B, dont les habitants de l'ère du Retz étaient tous morts après la chute. Le peuple de Demria se nommait l'hélice du spectre d'Amoyette. D'après le spectacle total, poème holo-symphonie, philosophique et épique, d'Alpul Amoyette. Dans son poème, Amoyette se servait des couleurs du spectre pour symboliser les valeurs humaines positives et montrer les juxtapositions, interactions, synergies et collisions hélicoïdales créées par ces valeurs. La symphonie de l'hélice du spectre devait être exécutée avec la poésie et le spectacle holo, car tous trois représentaient une interaction philosophique. Demria et Demloa m'expliquèrent que leur culture avait emprunté à Amoyette ses significations des couleurs. Le blanc symbolisait la pureté de l'honnêteté intellectuelle et de l'amour physique. Le rouge, la passion de l'art, la conviction politique et le courage physique. Le bleu, les révélations introspectives de la musique, les mathématiques, la thérapie personnelle en vue d'aider les autres, et la conception de tissus et de textures. Le vert émeraude, la communion avec la nature, le réconfort de la technologie, et la préservation des formes de vie menacées. Le noir d'ébène, la création de mystères humains, etc. Les unions trines, la non-violence et les autres particularités culturelles s'étaient développées aussi à partir de la philosophie d'Amoyet et, pour une large part, de la riche civilisation coopérative que le peuple du spectre avait instaurée sur Amertume de Sibiatus.
Alors le père Clifton vous a convaincu de rejoindre l'église ?
Dis-je lorsque la douleur s'apaisa assez pour me permettre une fois de plus de penser et de parler.
Oui, répondit Demloa.
Leur troisième partenaire, Alem Mikhail Demalem, était venu s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Il écoutait notre conversation mais prenait rarement la parole.
Qu'en pensez-vous ?
Demandai-je en remuant un peu pour répartir la douleur dans mon dos. Je n'avais pas réclamé d'ultramorphine depuis plusieurs heures, mais l'envie de le faire me hantait. Demria leva la main en un mouvement complexe qui me rappela le geste favori d'aîné.
Si nous acceptons tous la croix, notre petit Benria Damloa Alem pourra recevoir tous les soins médicaux dont dispose la base de la Pax à Bombazino. Même s'il n'arrive pas à le guérir de son cancer, Bin nous reviendra après.
Elle baissa les yeux et cacha ses mains expressives dans les plis de son peignoir.
Ils ne permettent pas que Bin soit le seul à accepter la croix.
Oh non, répondit Demloa. Ils veulent toujours que la famille entière se convertisse. Nous comprenons leur point de vue. Le père Clifton trouve que ce qui nous arrive est très triste, mais il espère que nous accepterons le sacrement de Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard pour Bin.
Qu'éprouve votre fille, cesse Ambre, à l'idée de devenir une chrétienne régénérée ?
Demandai-je, très conscient de poser des questions personnelles.
Mais j'étais intrigué.
Et penser à la décision douloureuse qu'ils affrontaient tenait mon esprit éloigné de ma douleur réelle, infiniment moins grave.
Le fait de rejoindre l'église et de devenir une citoyenne de la Pax plaît beaucoup à Cesse Ambre,
dit Demloa en levant son visage qu'encadrait la douce couleur bleue de son capuchon.
Elle pourra fréquenter un collège de l'église, à Bombazino ou à Keroatambat. Ces hommes pensent que les filles et les garçons qui y sont offriront des perspectives matrimoniales beaucoup plus intéressantes.
J'allais parler, je m'arrêtai, puis dis tout de même,
mais le mariage trine ne sera pas, je veux dire, est-ce que la Pax permettrait...
Non,
répondit Alem toujours à la fenêtre. Il fronça les sourcils et je vis de la tristesse dans ses yeux gris.
L'Église ne permet pas les unions entre personnes du même sexe, ni celles entre partenaires multiples. Notre famille serait dispersée.
Je remarquai les regards qu'ils échangèrent pendant une seconde. L'amour, le chagrin que j'y lus m'accompagneront pendant des années.
Demria soupira.
Mais c'est inévitable. Je pense que ce père Clifton a raison. Il faut que nous le fassions maintenant pour Bin. Au lieu d'attendre qu'il meure de sa vraie mort, le perdre à jamais, et alors rejoindre l'église. J'aime mieux emmener notre petit garçon à la messe le dimanche et rire avec lui au soleil. Que d'aller après à la cathédrale allumer un cierge en souvenir de lui.
Pourquoi la conversion est-elle inévitable ?
Demandai-je doucement. Demloa refit ce même geste gracieux.
Notre société de l'hélice du spectre dépend de tous ses membres. Toutes les étapes et tous les composants de l'hélice doivent être en place pour que l'interaction puisse œuvrer au progrès et au bien moral de l'humanité. De plus en plus de membres du spectre abandonnent leur couleur et rejoignent la Pax. Le centre ne tiendra pas.
Demria toucha mon avant-bras, comme pour souligner ses paroles suivantes.
La Pax ne nous contraint d'aucune manière,
dit-elle d'une voix douce, son aimable dialecte chantant comme le bruit du vent dans les rideaux de dentelle derrière elle.
Nous respectons le fait qu'ils réservent leurs médicaments et leurs miracles de résurrection pour ceux qui se joignent à eux.
Elle se tut.
Mais c'est dur pour nous,
termina Demloa d'une voix soudain furieuse. Alem Mikhaïl Demalem se leva et vint s'agenouiller entre les deux femmes. Il caressa le poignet de Demloa avec une infinie gentillesse. Il prit Demria par la taille. Un moment, tous trois se coupèrent de moi et du monde, enfermés dans leur amour et leur chagrin. Puis la douleur revint se planter comme une lance féroce dans mon dos et mon bas-ventre, le brûlant comme un laser. Je gémis malgré moi. Tous trois se séparèrent avec des mouvements gracieux, résolus. Demria alla chercher la seringue d'ultramorphine. Le même rêve se poursuivit. Je survolais, de nuit, le désert de l'Arizona, regardant Aîné et moi en train de boire du thé et de bavarder dans le vestibule de son abri. Mais cette fois, la conversation alla plus loin que le souvenir de notre véritable entretien de ce soir-là. « En quoi es-tu un virus ?» demandai-je à l'adolescente. « Comment ce que tu enseignes pourrait-il constituer une menace pour une organisation aussi vaste et aussi puissante que la Pax ?» Aîné regardait dehors et humait le parfum des fleurs qui s'épanouissaient la nuit dans le désert. Elle ne tourna pas les yeux vers moi lorsqu'elle reprit la parole.
« Sais-tu, Roll, la méprise majeure que commit oncle Martin dans ses cantos ?»«
Non. » Elle m'avait montré plusieurs de ses méprises, omissions ou conjectures butées, et ensemble nous en avions découvert quelques autres durant notre voyage vers l'ancienne terre.
« Elle est double, »
dit-elle doucement. Quelque part dans le désert, un faucon lança son appel.
D'abord, il croyait ce que le technocentre avait dit à mon père.
Que c'était eux qui avaient détourné la terre?
Tout ce qu'ils ont dit. Humon mentait aux cybrides de John Keats.
Pourquoi? Demandai-je. Ils avaient prévu de le détruire.
Mais ma mère était présente et a enregistré la conversation. Le centre savait qu'elle la répéterait au vieux poète.
Je hochai lentement la tête. Et qu'il l'inclurait comme un fait dans le poème épique qu'il était en train de composer. Mais quel intérêt avait-il à mentir à propos de « sa seconde erreur est plus subtile et plus grave » dit-elle m'interrompant sans élever la voix. Une pâle lueur restait suspendue derrière les montagnes, au nord et à l'ouest.
Oncle Martin croyait que le technocentre était l'ennemi de l'humanité.
Je posai ma tasse à thé sur la pierre.
En quoi est-ce une erreur?
Ne sont-ils pas nos ennemis? Quand la jeune fille ne répondit pas, je levai la main, les cinq doigts déployés. Premièrement, d'après les cantos, c'est le centre qui est derrière l'attaque menée contre l'hégémonie, celle qui a entraîné la chute des distrances. Pas les extros, le centre. L'Église l'a nié, faisant des extros les seuls responsables. Es-tu en train de me dire que l'Église a raison et que le vieux poète a tort?
Non. C'est le centre qui a orchestré l'attaque.
« Des milliards de morts » dis-je, bafouillant presque d'indignation. « L'hégémonie renversée, le Retz détruit, le canal large coupé. »«
Le technocentre n'a pas coupé le canal large, »
dit-elle doucement.
« D'accord, »
dis-je en respirant un bon coup. « C'était quelques mystérieuses entités, tes lions, tes tigres et tes ours, mettons. Mais le centre était bien derrière cette attaque. » Aîné hocha la tête et se resservit du thé. Je repliai le pouce contre ma paume et touchai mon index de l'autre main. Deuxièmement, le technocentre s'est-il, oui ou non, servi des distrances comme d'une sorte de sangsue cosmique qui suçait les réseaux neuro-humains en faveur de leur damné projet d'intelligence ultime? Chaque fois que quelqu'un franchissait un portail distrance, Il était utilisé par ces damnées intelligences autonomes? Vrai ou faux?
Vrai.
Troisièmement, dis-je en repliant l'index et tapotant le doigt suivant. Dans le poème, Rachel, la fille du pèlerin Sol Weintraub, qui est revenue à reculons du futur, avec les tombeaux du temps, annonce qu'un temps viendra où, je changeais de ton pour citer, la guerre finale fait rage entre l'IU engendré par le centre et l'esprit humain. Était-ce une erreur?
Non.
Quatrièmement, je commençais à me sentir idiot avec mon petit exercice de doigts, mais assez en colère pour continuer. Est-ce que le centre n'a pas avoué à ton père qu'il l'avait créé le cybride de John Keats, comme un piège pour la... comment l'appelait-il? La composante empathique de l'ultime intelligence humaine qui est censée naître un jour ou l'autre dans le futur?
C'est ce qu'il disait,
acquiesça aînée en buvant son thé à petite gorgée. Elle semblait s'amuser, ce qui fit croître ma colère. Cinquièmement, dis-je, repliant le dernier doigt, si bien que ma main était devenue un point. N'est-ce pas le centre, autant que la Pax? Bon sang, le centre commandant la Pax, qui a essayé de t'attraper et de te tuer sur Hyperion, sur le vecteur Renaissance et sur le bosquet de Dieu, à mi-chemin du bras spiral?
Oui.
Et n'est-ce pas le centre, continuai-je furieux, oubliant mon énumération et le fait que nous parlions des erreurs du vieux poète, qui a créé cette machine femelle qui s'est arrangée pour trancher le bras du pauvre abétique et qui aurait emporté ta tête dans un sac sans l'intervention du Gritch? Je brandis le poing tant j'étais en colère. N'est-ce pas ce putain de centre qui a essayé de me tuer moi aussi et nous tuera probablement si nous sommes assez stupides pour retourner dans l'espace de la Pax? Aîné hocha la tête. Je haletais presque, comme si j'avais effectué un sprint de 50 mètres. « Alors ?» dis-je sans conviction en ouvrant le poing. Aînée me toucha le genou. Comme chaque fois que j'entrais en contact avec elle, je sentis une décharge électrique.
« Roll, je n'ai pas dit que le centre n'avait pas fait de mal. J'ai simplement dit qu'oncle Martin commet une erreur en le présentant comme l'ennemi de l'humanité.
« Mais si tous ces faits sont vrais !» Je secouai la tête, l'esprit embrouillé.
« Des éléments du centre ont attaqué le Reds avant la chute, » dit Aîné. « Nous savons, d'après la visite que mon père a rendue à Humont, que le centre n'était pas d'accord avec un grand nombre de ses décisions.
« Mais !» commençai-je. Aîné leva la main, la paume vers moi. Je me tus.
« Il se servait de nos réseaux neuraux pour leur projet d'IA, mais il n'y a pas de preuve que cela faisait du tort aux humains. »
Je faillis rester bouche bée. Penser que ces satanés IA se servaient des cerveaux humains comme de bulles neurales dans leur putain de projet me donnait envie de vomir. Ils n'avaient pas le droit de faire ça.
Bien sûr. Ils auraient dû demander la permission. Qu'aurais-tu répondu?
Je leur aurais dit d'aller se faire foutre, dis-je en m'apercevant, au moment où je la proférais, de l'absurdité de cette répartie adressée à des intelligences autonomes. Aîné sourit de nouveau.
Et tu te souviens peut-être que nous nous sommes servis de leur pouvoir mental pendant plus de 1000 ans? Je ne crois pas que nous ayons demandé la permission à leurs ancêtres quand nous avons créé les premières IA de silicium, la première bulle magnétique et les premières entités à ADN.
Je fis un geste de colère. C'est différent!
Bien sûr. Le groupe des IA appelé les Ultimistes a, dans le passé, créé des problèmes à l'humanité et en créera dans le futur. Ils essaieront de nous tuer, toi et moi. Mais ce n'est qu'une partie du centre.
Je secouai la tête. Je ne comprends pas, ma grande, dis-je d'une voix plus douce. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a de bonnes IA et de mauvaises IA? Tu ne te souviens plus qu'elles ont réellement envisagé de détruire la race humaine? Et qu'elles peuvent le faire, même si nous tentions de les arrêter? Cela suffirait pour faire d'elles, dans mon livre, les ennemis de l'humanité. Aîné toucha de nouveau mon genou. Ses yeux noirs étaient graves.
N'oublie pas, Roll, que l'humanité a failli aussi détruire l'espèce humaine.
Les capitalistes et les communistes étaient prêts à faire sauter la Terre, alors que c'était la seule planète sur laquelle nous vivions à l'époque. Et pourquoi ?
Oui, dis-je sans conviction, mais...
Et l'Église est prête à détruire les extros en ce moment même ? Un génocide d'une ampleur que notre race n'a jamais connue ?
L'Église et beaucoup d'autres ne considèrent pas les extros comme des êtres humains.
Ne dis pas de sottises,
fit-elle avec brusquerie.
Bien sûr que ce sont des êtres humains. Ils ont évolué à partir d'origines humaines terriennes communes, comme le technocentre des IA. Les trois races sont des orphelins dans la tempête.
Les trois races ? Répétai-je. Bon Dieu, aîné, tu englobes les entités du centre dans ta définition de l'humanité ?
Nous les avons créées,
répliqua-t-elle doucement.
Très tôt, nous nous sommes servis d'ADN humain pour accroître leur puissance informatique, leur intelligence. Nous avons pris l'habitude de posséder des robots. Elles ont créé des cybrides avec de l'ADN humain et des personas d'IA. Maintenant, nous avons une institution humaine au pouvoir qui s'attribue toute la gloire, exige tout le pouvoir à cause de son allégeance à Dieu, de ses relations avec l'intelligence ultime humaine. Peut-être le centre connaît-il une situation semblable, maintenant que les ultimistes sont au pouvoir.
Je ne pus que la regarder fixement. Je ne comprenais pas. Aînée posa son autre main sur mon genou. Je sentis ses doigts puissants à travers l'étoffe de mon pantalon.
Roll, tu te souviens de ce que l'IA Humon a dit au second cybride de John Keats ? C'est relaté mot pour mot dans les Cantos. Humon parlait par énigme zen. Ou du moins, c'est ainsi qu'oncle Martin a retranscrit la conversation.
Je fermai les yeux pour me remémorer cette partie du poème épique. Bien du temps s'était écoulé depuis que Grand Dame et moi récitions cette histoire à tour de rôle autour du feu de camp de la caravane. Aîné prononça les mots en même temps qu'ils se formaient dans ma mémoire.
Humon a dit au second cybride de Keats, « Tu dois comprendre, Keats, que notre seule chance était de créer un hybride, fils de l'homme, fils de la machine, et de rendre ce refuge si attirant que l'empathie en fuite n'envisagerait pas d'autre foyer, la conscience la plus proche de la divinité que l'humanité ait offerte en 30 générations. Une imagination qui peut embrasser l'espace et le temps, et par cette offrande et cette union, former un lien entre les mondes, qui permet que le monde existe pour les deux. »
Je me frottai la joue et réfléchis. Le vent nocturne agita la toile de l'abri d'aîné et apporta de douces senteurs du désert. Des étoiles étrangères étaient suspendues à l'horizon, au-dessus des vieilles montagnes. L'empathie était censée représenter le composant en fuite de l'IU humaine, dis-je lentement comme si j'étais en train de résoudre une énigme. La part de notre conscience humaine évoluée dans le futur, qui revient dans le temps. Aîné me regarda. L'hybride était le cybride de John Keats, continuai-je. Fils de l'homme et de la machine.
Non,
dit Aîné d'une voix douce.
C'est cela la seconde méprise d'oncle Martin. Les cybrides de Keats n'ont pas été créés en vue de constituer dans cet âge un refuge pour l'empathie, mais pour être l'instrument de cette fusion entre le centre et l'humanité. En d'autres mots, pour concevoir un enfant.
Je regardai les mains de l'adolescente sur ma jambe. Alors, tu es la conscience la plus proche de la divinité que l'humanité ait offerte en 30 générations ? Aîné haussa les épaules. Et tu as une imagination qui peut embrasser l'espace et le temps ?
Tous les êtres humains en ont une. Mais quand je rêve et que j'imagine... Je vois des choses qui existeront vraiment. Tu te rappelles quand je t'ai dit que je me souvenais du futur ?
Oui.
Eh bien, maintenant, Je me souviens que je vais rêver de cette conversation dans quelques mois, pendant que tu seras couché dans un lit en train de souffrir horriblement, j'en ai bien peur, sur un monde au nom compliqué, dans une maison où tout le monde est habillé en bleu.
Quoi ?
Laisse tomber. Ce que je te dis aura un sens quand cela arrivera. Toutes les improbabilités en acquièrent un, lorsque les ondes de probabilité s'effondrent dans l'événement.
Aîné,
m'entendis-je dire tandis que je tournais en rond, toujours plus haut, au-dessus de l'abri construit dans le désert, en regardant la jeune fille et moi rapetisser.
Dis-moi quel est ton secret.
Le secret qui fait de toi ce messie, ce lien entre deux mondes.
D'accord, Rol, mon amour,
répondit-elle, apparaissant soudain comme une femme, juste avant que je décrive un cercle trop élevé pour pouvoir distinguer les détails ou entendre des paroles distinctes que la ruée de l'air sur mes ailes de rêve étouffait.
Je vais te le dire. Écoute.
Chapitre 9. Quand il se translata dans son cinquième système extro, le corps expéditionnaire Gédéon avait déjà fait du massacre une science. Le père capitaine de Soya avait appris, dans ses cours d'histoire militaire de l'école d'officiers de la flotte de la Pax, que presque toutes les batailles spatiales menées à plus d'une demi-UA d'une planète, d'une lune, d'un astéroïde ou d'un point de départ stratégique dans l'espace, s'engageaient d'un commun accord. Il se souvenait qu'il en avait été de même pour les marines primitives de l'ancienne Terre pré-égyrienne, à une époque où la plupart des grandes batailles navales se déroulaient en vue de la Terre, sur les mêmes territoires de combat aquatiques, et où la technologie des vaisseaux de surface changeait lentement, des trirèmes grecs aux cuirassés blindés. Les porte-avions et leurs avions de chasse à longue portée avaient modifié cela à jamais, permettant aux armadas de se détruire loin en mer et à grande distance l'une de l'autre, mais ces batailles étaient fort différentes des combats navals légendaires où les vaisseaux amiraux se rentraient dans le chou à portée de vue. Même avant que les missiles de croisière, les ogives nucléaires tactiques et les grossières armes à particules chargées mettent à jamais fin à l'époque des combattants hauturiers, les marines de l'ancienne Terre éprouvaient déjà de la nostalgie pour l'âge des bordées flamboyantes et du mirage de la cible. La guerre spatiale avait vu le retour d'engagement de ce type mené d'un commun accord. Les grandes batailles du temps de l'hégémonie, les guerres de destruction mutuelle entre le général Horace Glennon Haidt et ceux de son acabit ou les luttes séculaires entre les mondes du Retz et les essaims extro, s'étaient généralement déroulées non loin d'une planète ou d'un portail distant spatial. Et les distances séparant les combattants étaient ridiculement courtes, des centaines de milliers de clics, souvent des dizaines de milliers, fréquemment moins que cela, comparées aux années-lumière et aux parsecs parcourus par les parties en guerre. Mais cette proximité de l'ennemi était rendue nécessaire par le temps qu'il fallait à une lance-laser, à une BCP ou à des missiles ordinaires pour parcourir une simple UA. 7 minutes pour que la lumière franchisse la distance entre le tueur éventuel et la cible. Plus longtemps même pour les missiles à propulsion très élevée, où la chasse, la poursuite et la destruction pouvaient prendre des jours de recherche et de mesures défensives, d'attaque et de parade. Des vaisseaux de classe C+, n'avaient plus de raison de traîner dans l'espace ennemi jusqu'à ce que ces missiles chercheurs les trouvent, et le fait que l'Église limita l'utilisation des IA dans les ogives rendait au mieux problématique l'efficacité de ces armes. Aussi, pendant les siècles que dura l'hégémonie, la logistique des batailles spatiales était simple. Les flottes se translataient dans l'espace disputé et y rencontraient d'autres vaisseaux en translation ou des défenses plus statiques internes au système. On se rapprochait vite à des distances plus létales, puis éclatait un échange d'énergie bref mais terrible, et cela se terminait par l'inévitable retraite des forces attaquées le plus férocement, ou une destruction totale si la flotte des défenseurs n'avait nul endroit où faire retraite, suivie de la consolidation des gains de l'armée qui avait gagné. En théorie, les vaisseaux plus lents que De Soya avait commandés précédemment possédaient un puissant avantage tactique sur les croiseurs archanges à propulsion instantanée. Le réveil depuis la fugue cryotechnique ne prenait, au pire que quelques heures, au mieux quelques minutes. Si bien que le capitaine et l'équipage d'un vaisseau à propulsion Hawking étaient prêts à se battre peu après la translation C+. À bord d'un archange, même avec la dispense papale permettant des cycles de résurrection accélérés et risqués de 2 jours, Il fallait 50 heures standard ou plus pour que les éléments humains des vaisseaux soient capables de mener une bataille. En théorie, cela conférait un avantage certain aux défenseurs. Toujours théoriquement, la Pax aurait pu optimiser l'utilisation des vaisseaux à propulsion Gédéon en envoyant des aéronefs sans équipage, pilotés par des IA, qui apparaîtraient subitement dans l'espace ennemi, y causeraient des dégâts, puis disparaîtraient avant que les défenseurs sachent qu'ils étaient attaqués. Une telle pratique ne s'appliquait pas ici. L'Église n'avait jamais permis l'utilisation d'intelligence autonome capable d'une logique floue aussi avancée. Mais la flotte de la Pax avait élaboré des stratégies d'attaque adaptées aux exigences de la résurrection qui n'assuraient aucun avantage aux ennemis. Disons simplement qu'aucune bataille n'était plus menée d'un commun accord. Les sept archanges avaient été conçus pour s'abattre sur l'ennemi comme le poing ganté de fer de Dieu, et c'était précisément ce qu'ils étaient en train de faire. Lors des trois premières incursions du corps expéditionnaire Gédéon dans l'espace extro, le vaisseau de la mère Capitaine Stone, le Gabriel, se translata le premier et décéléra dans le système, attirant ainsi tous les détecteurs capteurs à longue portée électromagnétique, à neutrinos, etc. Les IA limitées du Gabriel suffisaient à cataloguer la position et l'identité de tous les postes de défense et des centres de population du système, tout en monitorant les mouvements lents de toute attaque extro et des véhicules de commerce. Une demi-heure plus tard, l'Uriel, le Raphaël, le Rémiel, le Sariel, le Michel et le Raguel se translataient dans le système. Retombé aux trois quarts seulement de la vitesse de la lumière, le corps expéditionnaire se déplaçait comme des boulets de canon par rapport aux vélocités de tortue des vaisseaux torches extro en pleine accélération. Recevant par la bande du faisceau étroit les informations et les données de pointage du Gabriel, il ouvrait le feu avec un armement qui ne s'en tenait pas à la vitesse de la lumière. Les missiles Hyper-K à propulsion Hawking améliorée apparaissaient subitement au sein des vaisseaux ennemis et au-dessus des centres de population, certains utilisant leur vélocité et leur pointage précis pour détruire des objectifs, d'autres détonnant en explosion thermonucléaire ou à plasma, soigneusement modulée, mais hétérogène. Au même instant, des sondes récupérables à haute vélocité et propulsion Hawking effectuaient un saut jusqu'au point où se trouvaient les cibles et se translataient dans l'espace réel en émettant des faisceaux lances conventionnels et des BCP, comme autant d'oursins mortels détruisant tout et n'importe quoi dans un rayon de 100 000 clics. Plus terrible encore, les rayons de la mort lancés par les archanges du corps expéditionnaire tranchaient comme d'invisibles faux qui se propageaient sur les ondes de propulsion Hawking des sondes et des missiles et se translataient dans l'espace réel aussi sûrement que l'effroyable et rapide épée de Dieu. Des milliards de synapses furent brouillées et frites en un instant. Des dizaines de milliers d'extros moururent sans savoir qu'on les attaquait. Puis le corps expéditionnaire Gédéon revenait dans le système sur des queues enflammées de 1000 km et se rassemblait pour la tuerie finale. Chacun des sept systèmes solaires choisis pour cible avait été exploré par des drones à propulsion instantanée, la présence d'extros infirmés et les premières cibles choisies. Ils avaient tous un nom, généralement une simple désignation alphanumérique dans la nouvelle édition du catalogue général, mais l'équipe des commandants, à bord de l'Uriel, leur donna pour nom d'objectif codé ceux de sept archidémons mentionnés dans l'Ancien Testament. Le père capitaine de Soya trouvait toute cette numérologie cabalistique un peu exagérée. Sept archanges, sept systèmes cibles, sept archidémons, sept péchés mortels. Mais il prit bientôt l'habitude de désigner ainsi les cibles. Belphégor, la paresse, Léviathan, l'envie, Belzébuth, la gourmandise, Satan, la colère, Asmodée, la luxure, Mammon, l'avarice, et Lucifer, l'orgueil. Belphégor, système à naine rouge, rappela à De Soya celui de l'étoile de Barnard, mais au lieu du joli monde terraformé tournant à proximité de son soleil, l'unique planète de Belphégor était une géante gazeuse semblable à Tourbillon, l'enfant oublié de l'étoile la plus proche de l'ancienne Terre après Alpha du Centaure. Il y avait de véritables objectifs militaires autour de cette géante gazeuse jamais nommée. des stations de ravitaillement pour les vaisseaux torches de l'essaim Extro partis attaquer le grand mur de la Pax, de gigantesques cargos-citernes qui convoyaient les gaz de la planète à une orbite, des quais de radoubement et des chantiers de construction par douzaines. De Soya lança, sans hésitation, le Raphaël à l'attaque, transformant tout cela en lave orbitale. Gédéon trouva la plupart des vrais centres de population extro au point troyen, au-delà de la géante gazeuse. Des douzaines de petites forêts orbitales pleines de dizaines de milliers d'anges, adaptés à l'espace qui, affolés par l'arrivée du corps expéditionnaire, déployèrent leurs ailes de champ de force à la lumière du soleil rouge et tiède. Les sept archanges dévastèrent ces délicates constructions, détruisant les forêts, les astéroïdes bergers et les comètes arroseuses, brûlant les anges extro adaptés à l'espace comme autant de phalènes plongées dans une flamme, tout cela sans ralentir sensiblement entre leurs points de translation d'entrée et de sortie. Léviathan, en dépit de son nom impressionnant, possédait une naine blanche de type B Sirius, avec seulement une douzaine d'astéroïdes extro attroupés autour de son feu pâle. Là, il n'y avait aucun des objectifs militaires évidents que De Soya avait si volontiers attaqué dans le système de Belphégor. Les astéroïdes ne disposaient d'aucune défense. C'étaient sans doute des rochers de natalité et des environnements excavés et pressurisés souterrains pour ceux des extros qui n'avaient pas voulu s'adapter au vide et aux radiations dures. Le corps expéditionnaire Gédéon les balaya de ses rayons de la mort et continua sa route. Belzébuth, le troisième système, une naine rouge semblable à Alpha du Centaure C, dépourvue de planètes ou de colonies, ne comptait qu'une unique base militaire extro tournant dans les ténèbres à quelques 30 UA et abritant 57 vaisseaux de l'essaim en plein ravitaillement ou en réparation. 39 de ces vaisseaux de guerre, allant par ordre de taille et d'armement des minuscules éclaireurs Ramjet aux transporteurs de guerre classe Orion, étaient aptes au combat et se jetèrent sur le corps expéditionnaire Gédéon. La bataille dura 2 minutes et 18 secondes. Les 57 vaisseaux extro et la base furent transformés en molécules de gaz ou en sarcophages sans vie. Les archanges ne subirent aucun dommage. Le corps expéditionnaire poursuivit sa route. Le quatrième système, Satan, n'avait pas de vaisseau. Seulement des colonies de reproduction éparpillées jusqu'au nuage d'Oort. Gédéon passa 11 jours dans ce système, livrant à la torche les anges de Lucifer. Le cinquième système, Asmodée, une charmante petite naine orange de type K, envoya des vagues de vaisseaux torches dans le système pour défendre sa ceinture peuplée d'astéroïdes. Ils furent brûlés et bombardés avec une économie de moyens née de la pratique. Le Gabriel signala la présence, dans la ceinture, de 82 rochers abritant une population estimée à 1,5 million d'extro adaptés et non adaptés. 81 furent détruits ou passés au rayon de la mort à une grande distance. Puis, l'amiral Aldikakti ordonna que l'on fasse des prisonniers. Le corps expéditionnaire Gédéon décéléra sur une longue ellipse de 4 jours, qui le ramena à la ceinture et à son unique rocher resté habité, un astéroïde grêlé de cratères, en forme de pomme de terre, qui mesurait 4 clics de long et 1 clic à son point le plus large. Le radar Doppler montra qu'il orbitait irrégulièrement selon des schémas aléatoires que seuls les dieux du chaos pouvaient comprendre, mais qu'il tournait sur son axe selon un mode rotissoir d'un dixième de G soigneusement orchestré. Le radar de profondeur montra qu'il était creux. Les sondes rapportèrent qu'il était habité par au moins 10 000 extros. L'analyse suggéra que c'était un rocher de natalité. 6 sauteurs de rochers non armés se jetèrent sur le corps expéditionnaire. L'Uriel les transforma en plasma à une distance de 86 clics. 1 millier d'anges extros, certains avec des armes à basse énergie ou des fusils sans recul, déployèrent leurs ailes champs de force et volèrent vers les lointains vaisseaux de la Pax en longues ellipses louvoyantes, sur la crête du vent solaire. Leur vélocité était si faible qu'il leur faudrait plusieurs jours pour couvrir cette distance. Le Gabriel fut chargé de les consumer avec 1 millier de clignotements de lumière cohérente. Des faisceaux étroits dardèrent entre les archanges. Le Raphaël et le Gabriel accusèrent réception des ordres et se rapprochèrent à 1 000 clics de l'astéroïde silencieux. Les portes s'ouvrirent et 12 silhouettes minuscules, 6 par vaisseau, reflétèrent la lumière de la naine orange tandis que gardes suisses, marines et soldats se propulsaient vers le rocher. Il n'y eut pas de résistance. Les soldats découvrirent deux portails de sas blindés. Avec un minutage précis, ils les firent sauter et entrèrent par équipe de 3.
Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ma dernière confession remonte à 2 mois standard.
Parlez, mon fils.
Père, l'engagement d'aujourd'hui me tracasse.
Ah oui?
Ça me paraît mal.
Le père capitaine de Soya resta silencieux. Il avait suivi l'assaut du sergent Grégorius sur les canaux tactiques virtuels. Il avait recueilli les comptes rendus de fin de mission de ses hommes. Maintenant, il savait ce qu'il allait réentendre dans l'obscurité du confessionnal.
« Parlez, sergent, »
dit-il doucement.
« Oui, mon capitaine, »
dit le sergent de l'autre côté de la cloison.
« Je veux dire, oui, mon père. »
Le père capitaine de Soya entendit le gros homme inspirer profondément.
« On s'est posé sur le rocher sans rencontrer de résistance. Les 5 jeunes et moi, je veux dire. On était en contact par faisceau étroit avec le groupe du sergent Klutsch du Gabriel. Et bien sûr avec les commandants Barnes Avni et Uchikawa. »
De Soya restait silencieux dans sa partie du confessionnal. Ce dernier était composé d'éléments repliables afin qu'on puisse le ranger quand le Raphaël était en propulsion ou en position de combat, c'est-à-dire la plupart du temps, mais il sentait le bois, la sueur, le velours et le péché, comme tous les vrais confessionnaux. Le père capitaine disposait d'une demi-heure pendant le dernier stade de leur montée vers le point de translation du 6e système extro, Mammon, et avait offert à l'équipage une possibilité de se confesser, mais seul le sergent Grégorius s'était présenté.
Alors, quand on a atterri, mon capitaine, père, j'ai conduit les gars de mon groupe au sas du pôle sud, juste comme dans les cimes. On a fait sauter les portes aussi facilement qu'on peut le souhaiter, et puis on a activé nos champs en vue d'un combat dans les tunnels.
De Soya hocha la tête. Les combinaisons de combat des gardes suisses avaient toujours été les meilleures de l'univers humain pour survivre, se déplacer et combattre dans l'air, l'eau, le vide absolu, les radiations dures, sous attaque de projectiles, sous assaut de lances d'énergie et dans un environnement d'explosion s'élevant jusqu'à la kilotonne. Mais les nouveaux équipements de commando disposaient de leur propre champ de confinement classe 4 et étaient capables de s'accrocher au champ plus redoutable des vaisseaux.
Les extras nous ont attaqués à l'intérieur, père. Ils se sont battus dans le labyrinthe obscur des tunnels d'accès. Certains d'entre eux étaient des créatures adaptées à l'espace, mon capitaine. Des anges qui n'avaient pas déployé leurs ailes. Mais la plupart étaient seulement des adeptes de la G-Basse en combinaison peau. On ne peut pas appeler ça une armure, père. Ils comptaient se servir de lances, de fusils et de rayons contre nous. Mais portaient des lunettes nocturnes rudimentaires pour amplifier la faible lueur qui émanait de la roche, mon capitaine. Et on les a vus les premiers avec nos filtres. On les a vus les premiers et on a tiré les premiers.
Le sergent Grégorius respira encore à fond.
Il nous a fallu seulement quelques minutes pour arriver au sas intérieur, père. Tous les extras qui ont essayé de nous arrêter dans les tunnels sont restés à flotter là.
Le père capitaine de Soya attendit.
À l'intérieur, père.
Grégorius s'éclaircit la gorge.
Les 2 groupes avaient fait exploser les portails intérieurs au même instant, mon capitaine. Au pôle nord et sud en même temps. Les sphères relais qu'on laissait derrière nous dans les tunnels transmettaient bien le faisceau étroit, comme ça on perdait jamais le contact avec le groupe de Kluge, ou avec les vaisseaux, comme vous le savez, père. Il y avait des sûretés intégrées dans les portes intérieures, on s'en doutait. On les a fait sauter aussi, et les membranes de secours une seconde après. Tout l'intérieur était creux, père. On le savait, c'est sûr. Mais je n'avais jamais pénétré dans un astéroïde de natalité, père. Beaucoup de rochers militaires, oui. Mais jamais un de gestation.
De Soya attendit.
Il faisait à peu près 1 clic de diamètre. Et des tours en bambou à jets basses en forme de toile d'araignée occupaient presque tout l'espace central. La coque extérieure n'était pas sphérique ou lisse, mais suivait plus ou moins la forme extérieure du rocher, vous comprenez ?
Une pomme de terre, dit De Soya.
Oui, mon capitaine. Et avec autant de puits et de cratères à l'intérieur aussi, père. Des quantités de caves et de grottes partout. Des tanières pour les extros enceintes, je suppose.
De Soya hocha la tête dans la pénombre et jeta un coup d'œil à son chronomètre, se demandant si le sergent, habituellement concis, allait en arriver à ses péchés avant qu'il soit obligé de ranger le confessionnal pour la translation C+.
Ça a dû être le chaos pour les extros, père. Avec le cyclone qu'a hurlé lorsque l'endroit s'est dépressurisé. Toute l'atmosphère s'écoulait par les deux sas crevés comme l'eau par le trou de la baignoire. Un air plein de saleté, de débris et d'extros emportés comme des feuilles dans l'ouragan. Les faunes extérieures de notre combinaison étaient branchées, père. Et le bruit est resté incroyable jusqu'à ce que l'air soit trop ténu pour le porter. Le rugissement du vent, le cri des extros, leurs lances et les nôtres qui crépitaient comme des tiges de paratonnerre, les explosions des grenades à plasma, et le son qui rebondissait et nous revenait dans cette grande caverne rocheuse, les échos qui se prolongeaient pendant plusieurs minutes. C'était assourdissant, père.
Oui, dit De Soya dans l'obscurité.
Le sergent Grégorius respira à fond de nouveau.
En tout cas, père, les ordres étaient de ramener deux échantillons de tout. Deux mâles adultes adaptés à l'espace et non adaptés. Deux femelles adultes enceintes et pas enceintes. Un couple d'enfants extros, prépubères et bébés, des deux sexes. On s'est mis au boulot, le groupe de Cluj et le nôtre. On les a endormis et mis en sac. Il y avait juste assez de gravité à la surface intérieure du rocher. Un dixième de G. Pour que les sacs restent là où on les laissait.
Il y eut un moment de silence. Le père capitaine De Soya allait parler, amenait la confession à sa conclusion, lorsque le sergent Grégorius chuchota à travers le grillage, dans l'obscurité qui les séparait.
« Désolé, père, je sais que vous êtes déjà au courant. C'est seulement que... C'est dur de... En tout cas, c'était ça la partie la pire, père. La plupart des extros pas modifiés, pas adaptés à l'espace, étaient morts ou mourants de décompression ou du feu des lances ou des grenades. On s'était pas servi des bâtons de la mort qu'on nous avait fournis. Ni Cluj ni moi, on n'avait rien dit aux gars. Seulement aucun d'eux ne s'est servi de ces trucs. Les extros adaptés se sont changés en anges. Leur corps devenait tout brillant quand ils activaient leur champ de force personnelle. Bien sûr, ils ne pouvaient pas étendre complètement leurs ailes, et ça les aurait pas aidés. Pas de lumière solaire à capter, et le dixième de G, c'était trop pour qu'ils arrivent à le surmonter, même s'il y avait eu du vent solaire. Mais ils se sont tout de même changés en anges. Certains ont essayé d'utiliser leurs ailes contre nous.
Le sergent Grégorius émit un son inarticulé qui aurait pu être une parodie de gloussement.
On avait des chants de classe 4, père. Et ils essayaient de nous cogner avec leurs ailes de gaz. N'importe comment, on les a brûlés. On a renvoyé 3 hommes de chaque groupe avec les spécimens en sac, et Cluj et moi. On a emmené les 2 gars qui nous restaient pour nettoyer les cavernes, comme on nous l'avait ordonné.
De Soya attendit. Il restait moins d'une minute avant qu'il soit obligé de mettre fin à la confession.
« On savait que c'était un rocher de natalité, père. On savait. Tout le monde sait que les extros, même ceux qui ont activé les machines injectées dans leurs cellules et leur sang, et qui n'ont rien d'humain, ils n'ont pas appris à permettre à leurs femelles de porter leurs enfants et d'accoucher en G0 et sous les radiations dures, père. » On savait que c'était un rocher de natalité quand on est rentré dans ce damné astéroïde. Je suis désolé, père.
De Soya resta silencieux.
Mais malgré tout, père, ces cavernes étaient comme des maisons. Il y avait des lits, des placards, des appareils vidéo à écran plat et des cuisines. Pas des choses qu'on croyait que les extros avaient, père. Mais la plupart de ces grottes étaient des...
Des crèches, dit De Soya.
Oui, mon capitaine. Des crèches. Des berceaux avec des bébés dedans. Pas des monstres extra-opères, pas ces choses pâles, brillantes avec lesquelles on se bat. Pas ces damnés anges de Lucifer avec des ailes de sang cliquent d'envergure à la lumière des étoiles. Seulement des bébés. Des centaines, père. Des milliers. Dans toutes ces cavernes. La plupart des salles avaient déjà été dépressurisées, tuant les bébés dans leur berceau. Certains des petits corps avaient éclaté lors de la dépressurisation, mais la plupart étaient encore bordés. Il y avait aussi des pièces qui étaient restées hermétiquement fermées, père. On a tout fait péter pour entrer. Des mères, des femmes en peignoir, des femmes enceintes avec des cheveux défaits qui volaient dans le dixième de G. Elles nous ont attaqué bec et ongles, père. On n'a pas réagi. On a attendu que l'ouragan les emporte dehors ou qu'elles meurent étouffées. Mais certains des bébés, des douzaines, père, étaient dans ces petites boîtes en plastique avec un respirateur.
Des couveuses, dit De Soya.
Oui,
chuchota le sergent Grégorius, d'une voix enfin lasse.
Et on a envoyé un message par faisceau étroit. Qu'est-ce qu'il voulait qu'on en fasse? De toutes ces douzaines et douzaines de bébés extra dans ces couveuses. Et le commandant Barnes Avni a répondu qu'il fallait continuer,
chuchota le père capitaine De Soya.
Oui, père. Alors on a
suivi les ordres, sergent.
Dans ces crèches, on s'est servi des grenades qui nous restaient, père. Et quand il n'y a plus de grenades à plasma, on a braqué les lances sur les couveuses. Salle après salle, caverne après caverne. Le plastique fondait autour des bébés, les recouvrait. Les couvertures s'enflammaient. Les boîtes devaient être alimentées en eau de pure, père. Parce que beaucoup d'entre elles explosaient comme des grenades. On a dû activer les champs de nos combinaisons, père, et même comme ça, il m'a fallu 2 heures pour nettoyer mon armure de combat. Mais la plupart des couveuses explosaient pas, père. Elles brûlaient comme du bois sec, brûlaient comme des torches, tout dedans brûlait comme des petites chaudières. Toutes les salles et les cavernes étaient maintenant sous vide, mais les boîtes, les petites couveuses, elles avaient encore une atmosphère quand elles brûlaient. Et on a fermé nos phones extérieurs, mon capitaine. Tous, on l'a fait. Mais malgré ça, on entendait tout de même les pleurs et les cris à travers les champs de confinement et nos casques. Je les entends encore, père.
Sergent, dit De Soya de sa voix dure et froide de commandement.
Oui, mon capitaine.
Vous avez obéi aux ordres, sergent. Nous avons tous obéi aux ordres. Sa sainteté a depuis longtemps décrété que les extros avaient livré leur humanité aux nano-engins qu'ils se sont injectés dans le sang, aux changements qu'ils ont pratiqués dans leurs chromosomes.
Mais les cris, père, sergent!
Le Conseil du Vatican et le Saint-Père ont décrété que cette croisade était nécessaire si l'on voulait que la famille humaine échappe à la menace extro. Vous leur avez obéi. Nous sommes des soldats.
« Oui, mon capitaine, »
chuchota le sergent dans l'obscurité. « Nous n'avons pas le temps de poursuivre, sergent. Nous parlerons de tout cela plus tard. Pour le moment, je veux que vous fassiez pénitence. Non parce que vous êtes un militaire et que vous avez suivi les ordres, mais parce que vous avez douté de ces ordres. 50 Ave Maria, sergent, et 100 Notre Père. Et je veux que vous fassiez des prières à cette intention. » Des prières fréquentes pour comprendre.
Oui, père.
Maintenant, dites votre acte de contrition avec sincérité. Vite, maintenant. Quand les paroles chuchotées commencèrent à traverser le grillage, le père capitaine De Soya traça le signe de croix en donnant son absolution. Ego te absolvo. 8 minutes plus tard,
Le père capitaine et son équipage étaient étendus sur leur couchette d'accélération, crèche de résurrection, tandis que la propulsion Gédéon du Raphaël s'activait, les emportant instantanément vers le système cible Mammon par le chemin d'une mort atroce et d'une renaissance lente et douloureuse. Le grand inquisiteur était mort et parti pour l'enfer. C'était non seulement sa seconde mort et sa seconde résurrection, il n'avait tiré aucun plaisir de ses expériences. Et Mars, c'était vraiment l'enfer. Le cardinal John Domenico Mustafa et son contingent de 21 administrateurs du Saint-Office et membres de la sécurité, y compris son indispensable adjoint, le père Farrell, étaient partis pour le système de l'ancienne Terre dans le nouvel astronef archange Jibril. On leur avait octroyé généreusement 4 jours pour se remettre de la résurrection et se ressaisir mentalement avant d'entamer leur travail à la surface de Mars. Le grand inquisiteur avait lu et assimilé assez de renseignements sur la planète rouge pour se former une opinion irréfutable. Mars, c'était l'enfer. « À vrai dire, votre excellence, » répondit le père Farrell la première fois que le grand inquisiteur formula tout haut sa conclusion, l'une des autres planètes de ce système, Vénus, correspond mieux à cette description. Des températures d'ébullition, des pressions écrasantes, des lacs de métaux liquides, des vents comme des gaz d'échappement de tuyères à réaction, bouclez-la, dit Mustapha en le congédiant d'un geste là. Mars. Le premier monde colonisé par la race humaine en dépit de son taux bas, 2,5, sur l'ancienne échelle de Solmef, la première tentative de terraformation, le premier échec. Un monde dont on se passait très bien depuis la chute de l'ancienne Terre dans le trou noir, à cause de la propulsion Hawking, à cause des impératifs de l'Égir, et parce que personne n'avait envie de vivre sur cette sphère de permafrost rouillé alors que la galaxie offrait un nombre presque infini de planètes plus belles, plus saines, plus viables. Après la mort de l'ancienne Terre, Mars avait été pendant des siècles un tel trou perdu que le Retz n'y avait jamais établi de portail distance. Planète déserte qui ne présenta d'intérêt que pour les orphelins de la Nouvelle-Palestine, le légendaire colonel Fedman Kassad était né là, dans un des camps de transfert palestinien, Mustapha fut surpris de l'apprendre, et pour des chrétiens zen revenant au bassin des Lasses afin de reproduire l'illumination de Maître Schrauder dans le massif zen. Pendant un siècle, on avait cru que l'énorme projet de terraformation marcherait. Des mers remplirent les bassins d'impact géants, des fougères cyclades proliférèrent sur les bords de la marine Eris. Mais lorsque les revers se produisirent, il n'y avait plus de fond pour combattre l'entropie et la nouvelle ère glaciaire de 60 000 ans s'installa. À l'apogée de la civilisation du Retz, l'aile militaire de l'hégémonie, la force, avait apporté les distances au monde rouge et criblé d'habitat une grande partie de l'immense volcan, le mont Olympus, pour y installer son école d'officiers olympiques. Le fait que Mars soit isolé du commerce et de la culture du Retz convenait bien à la force, et cette planète resta une base militaire jusqu'à la chute des distances. Dans le siècle suivant, ce qui restait de la force y institua une dictature militaire malveillante, la machine de guerre martienne, comme elle s'appela, qui étendit son pouvoir jusqu'au système du Centaure et de Tau Ceti, et elle aurait pu devenir le cristal originel d'un second empire interstellaire si la Pax n'était pas survenue. Celle-ci soumit rapidement les flottes martiennes, repoussa la machine de guerre jusqu'au système de l'ancienne Terre, envoya les seigneurs de la guerre dépossédés se cacher dans les ruines des bases orbitales de la Force et les anciens tunnels sous le mont Olympus, remplaça la présence de la machine de guerre dans le système de l'ancienne Terre par des bases de la flotte de la Pax, établies dans la ceinture d'astéroïdes et sur les lunes de Jupiter, et pour finir, envoya missionnaires et gouverneurs pacifier Mars. Il restait pour les premiers peu de gens à convertir sur le monde rouillé, et guère plus à gouverner pour les administrateurs de la Pax. L'air était devenu ténu et froid. Les grandes cités avaient été pillées puis abandonnées. Les violentes tempêtes de sable du type Simoun, soufflant d'un pôle à l'autre, avaient reparu. Des pestes parcouraient les déserts glacés, décimant ou pis encore, les dernières bandes de nomades descendant de la noble race des Martiens. Et seuls des cactus épineux bordeaux poussaient maintenant là où de grands vergers de pommiers et des champs de bradberry prospéraient autrefois. Curieusement, ce furent les Palestiniens, opprimés et tellement maltraités, qui survécurent et se développèrent sur le plateau gelé de Tarsis. Les orphelins de l'ancienne diaspora nucléaire de 2038 après Jésus-Christ s'étaient adaptés aux rudes conditions de Mars et avaient converti à leur culture islamique une grande partie des tribus nomades et des cités-nations libres survivant encore sur la planète lorsque les missionnaires de la Pax arrivèrent. Les nouveaux Palestiniens, qui avaient refusé de se soumettre à la cruelle machine de guerre martienne, n'avaient maintenant aucune envie d'abandonner leur autonomie pour rentrer dans l'Église. Ce fut précisément dans la capitale palestinienne d'Arafat Kafieh que le Gritch apparut et massacra des centaines, peut-être des milliers, de personnes. Le grand inquisiteur s'entretint avec ses adjoints, reçut les commandants de la flotte en orbite et atterrit en force. On ferma le principal astroport de Saint-Malachie, la capitale, à tout trafic sauf militaire, sans causer grand tort car aucun vaisseau de descente marchand ou de passagers n'était prévu avant une semaine martienne. 6 astronefs d'assaut précédèrent celui du grand inquisiteur et lorsque le cardinal Mustapha posa le pied sur le sol martien, ou plutôt sur le bitume de la Pax pour être précis, une centaine de gardes suisses et de membres des commandos du Saint-Office avaient déjà encerclé le spatioport. Le comité d'accueil martien, y compris l'archevêque Robson et le gouverneur Clark Palot, fut fouillé et passé à la détection sonique avant d'obtenir le droit d'entrée. Du spatioport, le groupe du Saint-Office fut rapidement emmené en navette par les rues délabrées au nouveau palais du gouverneur édifié par la Pax dans les faubourgs de Saint-Malachie. Le déploiement de la sécurité était impressionnant. Outre la force de police personnelle du grand inquisiteur, les marines de la flotte, les soldats du gouverneur et le contingent de gardes suisses de l'archevêque, un régiment d'infanterie cuirassée de la garde nationale campait autour du palais. On montra au cardinal Mustapha les preuves de la présence du Gritch sur le plateau de Tarsis 2 semaines standard plus tôt.
« C'est absurde, » dit le grand inquisiteur le soir précédant cette inspection des lieux du massacre. « Toutes ces images vidéo ou holo sont vieilles de 2 semaines standard ou ont été prises de très haut. Je vois quelques holos de ce que doit être le Gritch et quelques scènes floues du carnage. » J'aperçois sur les photos de la Pax les corps des hommes de la milice que l'on a trouvés quand on est entré dans la ville. Mais où sont les habitants? Où sont les témoins? Où sont les 2700 citoyens d'Arafat Kafieh?
Nous l'ignorons,
répondit le gouverneur.
Nous avons envoyé un rapport au Vatican par drone archange et dans la réponse qu'il a ramenée, on nous disait de ne pas toucher aux preuves,
intervint l'archevêque.
On nous disait d'attendre votre arrivée.
Le grand inquisiteur secoua la tête et brandit une photo sans relief.
Et ça, qu'est-ce que c'est?
Une base de la flotte de la Pax dans les faubourgs d'Arafat Kafieh?
Ce spatioport est plus récent que celui de Saint-Malachie.
Ce n'est pas la flotte de la Pax,
répliqua Walmack, capitaine du Gibril et nouveau commandant du corps expéditionnaire du système de l'ancienne Terre.
Même si nous estimons que 30 à 50 vaisseaux de descente par jour fréquentèrent cette installation durant la semaine précédant l'apparition du Gritch.
30 à 50 vaisseaux de descente par jour,
répéta le grand inquisiteur.
Et ils n'appartenaient pas à la flotte de la Pax? Mais à qui, alors?
Il regarda l'archevêque et le gouverneur en fronçant les sourcils.
« Au Mercantilus ?»
insista le grand inquisiteur, car personne ne répondait.
« Non !»
dit l'archevêque au bout d'un moment.
« Pas au Mercantilus !»
Mustapha croisa les bras et attendit.
« C'est l'Opus Dei qui avait affrété ses vaisseaux de descente ?»
dit le gouverneur d'une toute petite voix.
« Pour quelle raison ?»
demanda le grand inquisiteur. Seuls les gardes du Saint-Office avaient eu le droit d'entrer dans cet appartement du palais et ils se tenaient à 6 mètres d'intervalle le long du mur de pierre. Le gouverneur fit un geste d'impuissance.
« Nous l'ignorons, votre excellence. »«
Domenico, »
dit l'archevêque d'une voix un peu tremblante,
« on nous a dit de ne pas interférer. »
Le grand inquisiteur, poussé par la colère, s'avança d'un pas.
« On vous a dit de ne pas... Mais qui ? Qui a le pouvoir d'ordonner à un archevêque et à un gouverneur de la Pax de ne pas interférer ?»
Sa colère bouillonnait.
« Au nom du Christ, qui possède un tel pouvoir ?»
L'archevêque regarda le cardinal Mustapha avec des yeux peinés mais pleins de défis.
« Au nom du Christ, justement, votre Excellence !» Les représentants de l'Opus Dei détenaient des disques papaux émis par la Commission Pontificale Justice et Paix. On nous a dit que ce qui se passait à Arafat Kafieh était ultra-secret. On nous a dit que cela ne nous concernait pas. On nous a dit de ne pas nous en mêler.
Le grand inquisiteur sentit son visage s'empourprer d'une rage à peine contenue.
C'est le Saint-Office qui est responsable des questions de sécurité sur Mars ou en tout autre endroit de la Pax,
dit-il catégoriquement.
La Commission pontificale Justice et Paix n'a aucun statut ici. Où sont les représentants de la Commission ? Pourquoi ne sont-ils pas présents à notre réunion ?
Le gouverneur leva une main maigre pour désigner la photo sans relief que tenait le grand inquisiteur.
« Là, votre Excellence, voilà les autorités de la commission. »
Le cardinal Mustapha regarda la photographie glacée. Des cadavres vêtus de blanc jonchaient les rues rouges rouilles d'Arafat Kafieh. Malgré le grain de l'image, on voyait clairement que les corps étaient déchiquetés en forme grotesque et gonflés par la décomposition. Le grand inquisiteur dit d'une voix douce, en luttant contre l'envie de hurler puis d'ordonner que ces imbéciles soient torturés et fusillés,
« Pourquoi ces morts n'ont-ils pas été régénérés et questionnés ?»
L'archevêque tenta vraiment de sourire.
« Vous verrez cela demain, votre Excellence. Ce sera tout à fait clair demain. »
Les VEM étaient inutilisables sur Mars. On se servit des glisseurs blindés de la sécurité de la Pax pour les transporter sur le plateau de Tarsis. Les vaisseaux torches et le Jibril surveillaient leur progression. Des chasseurs scorpions s'envolèrent en patrouille de combat air-espace. À 200 clics du plateau, 5 escadrons de marines se laissèrent tomber des glisseurs et volèrent en avant-garde à basse altitude. Ils ratissèrent la zone avec des sondes acoustiques et prirent leur position de tir. Seul le sable bougeait à Arafat Kafieh. Les glisseurs de la sécurité du Saint-Office se posèrent les premiers, leurs pattes d'atterrissage s'enfonçant dans le sable du terrain communal ovale de la cité, là où poussait autrefois de l'herbe. Les vaisseaux venus d'ailleurs joignirent leur champ de confinement classe 6 en un seul, qui fit miroiter les bâtiments entourant la place, comme s'ils étaient plongés dans une brume de chaleur. Les marines avaient établi un cercle défensif, dont le terrain communal occupait le centre. Puis les soldats de la Pax, du gouverneur et de la garde nationale, établirent un second périmètre dans les rues et les ruelles environnantes. Les 8 gardes suisses de l'archevêque défendaient le cercle extérieur au champ de confinement. Pour finir, les forces de sécurité du Saint-Office descendirent en courant les rampes du glisseur et couvrirent le périmètre intérieur, silhouette agenouillée en armure noire de combat.
« La voie est libre !» déclara le sergent des marines sur le canal tactique. « Rien de vivant dans un rayon d'un kilomètre autour du site 1 !»
dit d'une voix âpre le lieutenant de la garde nationale.
« Des cadavres dans la rue !»« Rien à signaler !»
compléta le capitaine de la garde suisse.
« Rien ne bouge à Arafat Kafieh, sauf vos hommes !»
C'était la voix du capitaine du Jibril.
« Affirmatif !»
conclut Browning, le commandant de la sécurité du Saint-Office. Le grand inquisiteur, mécontent, se sentant un peu idiot, descendit la rampe majestueusement et traversa le terrain communal sablonneux. Le stupide masque à osmose qu'il devait porter n'améliorait pas son humeur. L'amplispirateur circulaire, suspendu à son épaule, ressemblait à un médaillon branlant.
Le père Farrell, l'archevêque Robson, le gouverneur Palot et un bataillon de fonctionnaires trottèrent sur les talons du cardinal Mustapha, qui passa à grands pas devant les silhouettes agenouillées de la sécurité et, d'un geste impérieux de la main, ordonna que l'on découpe une porte dans le champ de confinement. Il la franchit, malgré les protestations du commandant Browning et des autres formes en armure noire qui couraient pour le rattraper. « Où est le premier des ?» commença le grand inquisiteur en s'engouffrant à grands bonds dans l'étroite ruelle qui s'ouvrait en face du terrain communal. Il n'était pas habitué à la faible gravité.
« Passez le coin !»
haleta l'archevêque.
« Nous devrions attendre que les champs extérieurs soient... »
dit le gouverneur Palot.
« Là !»
Le père Farrell montra la rue dans laquelle il venait de surgir. Les 15 premiers s'immobilisèrent si brusquement que les adjoints et les gens de la sécurité qui suivaient durent s'accrocher les uns aux autres pour ne pas heurter les personnages de marque qui les précédaient.
« D'où Jésus ?»
chuchota l'archevêque en se signant. Derrière le masque à osmose transparent, son visage était blême.
« Mon Dieu !»
murmura le gouverneur.
« Cela fait 2 semaines que je vois les holos et les photos, mais... Mon Dieu !»
s'exclama le père Farrell en se rapprochant du premier cadavre. Le grand inquisiteur le rejoignit. Il plia le genou dans le sable rouge devant le corps tordu. On aurait dit que quelqu'un avait voulu façonner une sculpture abstraite avec sa chair, ses os et ses tendons. Cette forme n'aurait plus rien eu d'humain sans les dents qui brillaient dans la bouche distendue et une main reposant sur la poussière mouvante de Mars. Au bout d'un moment, le cardinal Mustapha dit « Est-ce que ce sont des charognards qui ont fait cela ? Des oiseaux prédateurs, peut-être ? Des rats ?»«
Négatif, » dit le major Piet, commandant de l'armée de terre de la flotte du gouverneur. « Il n'y a plus d'oiseaux sur le plateau de Tarsis depuis que l'atmosphère a commencé à s'amenuiser il y a 2 siècles.
Aucun rat !»
Aucune chose en mouvement n'a été captée par les détecteurs depuis que c'est arrivé.
C'est le Gritch qui a fait cela, dit le grand inquisiteur.
Il ne semblait pas convaincu. Il se releva et s'avança vers le second cadavre, qui avait peut-être été une femme. On aurait dit qu'on avait retourné son corps comme un gant avant de le déchiqueter.
Et ça aussi ?
« Nous le pensons, »
répondit le gouverneur.
« La milice qui a tout découvert a rapporté la caméra de sécurité qui a pris cet holo de 38 secondes que je vous ai montré. »
« On aurait dit qu'une douzaine de Gritch tuait en même temps une douzaine de gens, » ajouta le père Farrell. « C'était flou. »«
Il y avait une tempête de sable, » ajouta Piet. « Et un seul Gritch, nous avons étudié les images individuelles. » Il se déplaçait si vite dans la foule qu'on aurait dit plusieurs créatures.
« Il se déplaçait dans la foule, »
murmura le grand inquisiteur. Il s'avança vers le troisième corps qui avait peut-être été un enfant ou une petite femme.
« Pour cela ?»«
Oui. »
Le gouverneur regarda l'archevêque qui était allé s'appuyer contre un mur. Il y avait de 20 à 30 corps dans cette partie de la rue. Le père Farrell s'agenouilla et fit courir sa main gantée sur la poitrine et dans la cage thoracique du premier. La chair était gelée, comme le sang qui, en coulant, avait formé une cascade de glace.
« Et il n'y avait aucune trace de cruciforme, » dit-il doucement.
« Pas sur les 2 corps que la milice a envoyés pour qu'ils soient régénérés. Aucun signe de cruciforme sur eux. S'il y avait eu un reste quelconque, même 1 millimètre de nodosité ou 1 brin de fibre dans la tige cérébrale ou...
« Nous savons cela !»
l'interrompit le grand inquisiteur avec brusquerie pour mettre fin aux explications.
« Très étrange !»
dit l'évêque Erdol, l'expert en technique de régénération du Saint-Office.
« À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'exemple de cadavre où l'on ait pu trouver un reste de cruciforme. »
H. Palot a raison, bien sûr.
Le plus infime morceau de cruciforme suffit pour administrer le sacrement de résurrection.
Le grand inquisiteur s'arrêta pour examiner un corps qui avait été projeté suffisamment fort contre une grille pour s'y empaler en une douzaine d'endroits.
On dirait que le Gritch cherchait les cruciformes. Il les a extirpés des cadavres.
Impossible, dit l'évêque Erdl, simplement impossible. Il y a plus de 500 mètres de microfibres dans les extensions nodales cellulaires du...
Impossible, acquiesça le cardinal Mustapha. Mais quand nous aurons ramené ces cadavres, je parie qu'aucun ne sera récupérable. Le Gritch leur a peut-être arraché le cœur, les poumons et la gorge, mais c'était les cruciformes qu'il cherchait.
Browning, le commandant de la sécurité, tourna le coin de la rue avec 5 soldats en armure noire.
Votre Excellence, dit-il sur le canal tactique que seul le grand inquisiteur pouvait entendre. Le pire, c'est à un pâté de maison plus loin. Par ici.
L'escorte suivit l'homme en armure noire, mais lentement, à contre-cœur. On répertoria 362 cadavres. Beaucoup étaient dans les rues, mais la plupart se trouvaient dans les immeubles de la ville ou dans les appentis, les hangars et les astronefs du nouveau spatioport construit aux abords d'Arafat Kafieh. On prit des holos et les équipes médico-légales du Saint-Office occupèrent les lieux, filmant chaque site avant d'emmener les corps à la morgue de la base de la Pax, aux environs de Saint-Malachy. On établit que toutes les victimes venaient d'autre monde, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni Palestiniens du coin, ni indigènes martiens parmi elles. C'est le spatioport qui intrigua le plus les experts de la flotte.
« 8 vaisseaux de descente en service sur le port lui-même, » dit Piet. « C'est un nombre considérable. Le spatioport de Saint-Malachy n'en a que 2. »
Il leva les yeux vers le ciel pourpre martien.
En présumant que les aéronefs qui se posaient et décollaient avaient leur propre vaisseau chute, au moins 2 chacun s'il s'agissait de cargo, alors nous avons là un fameux système logistique.
Le grand inquisiteur regarda l'archevêque de Mars, mais le petit homme se contenta de dire
« Nous ne savons rien de ces opérations. Comme je l'ai déjà expliqué, c'était un projet de l'Opus Dei. »
Bon. Répondit le cardinal Mustapha. Autant qu'on puisse le dire, tout le personnel de l'Opus Dei est mort. Réellement, irrévocablement mort. Aussi, le responsable, maintenant, c'est le Saint-Office. Vous n'avez aucune idée de la raison pour laquelle on a créé ce spatioport? Des métaux lourds, peut-être? Une sorte d'opération minière?
Le gouverneur fit non de la tête.
Ce monde a été exploité pendant 1 millier d'années. Il n'y a plus de métaux lourds qui vaillent la peine d'être embarqués. Aucun minerai dont la récupération vaille un temps d'opération locale. Encore moins le temps de l'Opus Dei.
Le major Piet releva sa visière et frotta son menton parasé.
On est venu chercher quelque chose ici, vos excellences. 8 vaisseaux de descente et des systèmes d'enregistrement. Une sécurité automatisée. Si le Gritch ou quoi que ce soit d'autre n'a pas détruit les ordinateurs et les systèmes d'enregistrement...
Commença le commandant Browning. Le major Piet secoua la tête.
Ce n'était pas le Gritch. Les ordinateurs ont été détruits par des charges creuses et des virus à ADN adaptés.
Il regarda le bâtiment administratif vide. Du sable rouge s'était déjà infiltré par les portails et les joints.
Je suppose que ces gens ont détruit leurs propres fichiers avant l'arrivée du Gritch. Je pense qu'ils étaient sur le point d'évacuer. C'est pour cela que les vaisseaux de descente étaient en mode pré-lancement, les ordinateurs de bord prêts à partir.
Oui, dit le père Farrell. Mais tout ce que nous avons, ce sont des coordonnées orbitales. Avec qui ou quoi ils avaient rendez-vous à cet endroit? Impossible de le savoir. Le major Piet regarda par la fenêtre la tempête de sable qui soufflait.
« Il y a 20 bus de sol dans le parking, »
murmura-t-il comme s'il se parlait à lui-même.
« Chacun peut transporter 80 passagers. » Une surestimation logistique si le contingent de l'Opus Dei ne comptait que les 360 personnes environ dont nous avons trouvé les corps.
Le gouverneur Palot fronça les sourcils et croisa les bras.
Nous ignorons pourquoi il y avait un tel personnel de l'Opus Dei en ces lieux. Comme vous l'avez fait remarquer, les fichiers ont été détruits. Peut-être étaient-ils des milliers.
Le commandant Browning s'introduisit dans le cercle des personnages de Marc.
Je vous demande pardon, gouverneur, mais les baraquements qui se trouvent dans le périmètre du champ ne pouvaient abriter que 400 personnes. Je pense que le major a raison. Tout le personnel de l'Opus Dei se réduit au nombre de corps que nous avons trouvés.
On ne peut pas en être certain, commandant,
dit le gouverneur Palot d'une voix qui semblait mécontente.
Non, madame.
Elle montra d'un geste la tempête de sable qui dissimulait presque les bus garés.
Et nous avons la preuve qu'ils avaient besoin de transporter bien plus de gens que cela.
Peut-être n'était-ce qu'un contingent d'avant-garde,
avança Browning,
qui préparait l'arrivée d'une population bien plus élevée. Alors pourquoi détruire les fichiers et les IA limités?
Demanda le major Piet.
Pourquoi se préparait-il à partir pour de bon?
Le grand inquisiteur s'avança au centre du cercle et leva une main gantée de noir.
Cessons pour le moment de faire des hypothèses. Le Saint-Office va commencer demain à enregistrer les dépositions et à mener les interrogatoires. Gouverneur, peut-on utiliser votre bureau au palais?
Bien sûr, Votre Excellence.
Palot baissa la tête, soit pour exprimer sa déférence, soit pour dissimuler son regard, soit les deux.
Parfait. Commandant, major, faites venir les glisseurs. Laissons travailler les équipes médico-légales et les employés de la morgue.
Le cardinal Mustapha regarda la tempête qui empirait. On entendait maintenant son hurlement à travers les 10 couches de plastique de la fenêtre.
Quel est le nom local de cette tempête de sable?
Le Simoun, répondit le gouverneur. En général, les tempêtes se déchaînent sur l'ensemble de la planète. Tous les ans martiens, elles gagnent en intensité.
Les gens du coin disent que ce sont les vieux dieux martiens,
chuchota l'archevêque Robson,
qui prennent leur revanche.
À moins de 14 années-lumière du système de l'ancienne Terre, au-dessus du monde appelé Vitus Grey Balianus B, un vaisseau spatial autrefois appelé le Raphaël, mais qui maintenant n'avait plus de nom, terminait son opération de freinage en orbite géosynchrone. Les 4 choses vivantes qui étaient à bord flottaient en apesanteur, le regard fixé sur l'image de la planète désertique que leur fournissait la table traçante.
Peut-on se fier à notre relevé des perturbations actuelles du champ d'Istrans? Il est plus fiable que la plupart des autres indices,
répliqua sa jumelle apparente, Radamante Némès.
Nous allons le vérifier.
Commencerons-nous par l'une des bases de la Pax? Dit le mâle appelé Gigès.
La plus grande, répondit Némès. Ce sera Bombassino,
précisa Briaré en vérifiant le code sur la table traçante.
Dans l'hémisphère nord, le long de la route du canal central. Une population de... Peu nous importe le chiffre de la population,
l'interrompit Radamante Némès.
Ce qui compte, c'est de savoir si l'enfant aîné, l'androïde, et ce bâtard d'Endymion sont passés par là. Le vaisseau de descente est prêt,
dit Scylla. Ils pénétrèrent en hurlant dans l'atmosphère, déployèrent leurs ailes juste au moment où ils traversaient le Terminateur, utilisèrent le code du disque du Vatican par l'entremise du transpondeur pour obtenir l'autorisation d'atterrir, et se posèrent parmi des scorpions, des glisseurs transporteurs de troupes et des VEM blindés. Un lieutenant nerveux les accueillit et les escorta jusqu'au bureau du commandant de la base.
« Vous dites que vous appartenez à la garde noble ?»
demanda le commandant Solsnikov en étudiant, en même temps, leur visage et l'affichage de l'interface du disque.
« Nous vous l'avons dit, »
répliqua Radamante Némès d'une voix blanche.
Nos papiers, la pastille des ordres et le disque l'ont dit. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter, commandant?
Le visage et le cou de Solsnikov s'empourprèrent au-dessus du haut col de sa tunique. Il regarda l'holo d'interphase au lieu de répondre. En principe, ces officiers de la garde noble, membres des nouvelles unités exotiques du pape, pouvaient user et abuser de leur autorité avec lui. En principe, ils pouvaient le faire fusiller ou l'excommunier, puisque leur rang de chef de cohorte de la garde noble combinait les pouvoirs de la flotte de la Pax et ceux du Vatican. En principe, d'après le texte et l'encryptage de priorité du disque, il pouvait l'emporter hiérarchiquement sur un gouverneur planétaire ou dicter la politique de l'Église à l'archevêque président d'un monde. En théorie, Solznikov souhaitait que ces monstres pâles ne se soient jamais montrés sur sa planète reculée. Le commandant se força à sourire. « Nos forces armées sont à votre disposition. Que puis-je faire pour vous ?» La femme mince et pâle qui s'appelait Némès brandit une holocarte au-dessus du bureau du commandant et l'activa. Brusquement, les têtes grandeur nature de trois personnes flottèrent entre eux dans l'espace, ou plutôt de deux personnes seulement, car le troisième visage était visiblement celui d'un androïde à la peau bleue. « Je croyais qu'il n'y avait plus d'androïdes dans la Pax, » dit Solznikov. « Vous a-t-on rapporté la présence d'un de ces trois-là sur votre territoire, commandant ?» demanda Némès en ne tenant aucun compte de sa remarque. « Il est probable qu'on les a vus sur la grande rivière qui coule de votre pôle nord à l'équateur. »«
En réalité, c'est un canal, » commença Solznikov, et il se tut.
Aucun des quatre n'était, semblait-il, du genre à apprécier une petite conversation ou une information superflue. Il convoqua son adjoint, le colonel Vinara.
« Leur nom ?» demanda le commandant tandis que Vinara restait immobile, son persoc allumé.
Némès en énonça trois qui ne disaient rien au commandant.
« Ce ne sont pas des gens du coin, » dit-il tandis que le colonel Vinara vérifiait les fichiers. « Les membres de la culture indigène, appelés l'hélice du spectre d'Amoyette, ont tendance à accumuler les noms comme mon chien de chasse sur Pataufa collectionnait les tiques. Vous comprenez, ils pratiquent un mariage trine ou... »«
Ce ne sont pas des gens de ce monde, » l'interrompit Némès. Ses lèvres minces semblaient aussi dépourvues de sang que le reste de son visage blême, au-dessus du col de son uniforme rouge. « Ils viennent d'ailleurs. »«
Ah bon ?»
dit Solznikov, soulagé à l'idée d'être débarrassé de ces monstres de la garde noble dans une minute ou deux.
Alors nous ne pouvons pas vous aider. Vous comprenez, le spatioport de Bombassino est le seul qui fonctionne sur Vitus Grebalianus B, maintenant que nous avons fermé l'indigène de Kerouat Tambat, et sauf quelques spatiaux qui finissent leur carrière dans notre brigade, il n'y a aucune immigration ici. Les gens du coin sont tous de l'hélice du spectre, et ils aiment les couleurs, ça, oui. Mais un androïde ressortirait comme un... Eh bien, colonel ?
Vinara leva les yeux des recherches qu'il venait d'effectuer dans la base de données.
Et non, et les images ne figurent dans aucun de nos fichiers, sauf dans un message envoyé à toutes les patrouilles de la flotte de la Pax il y a environ 4 ans et demi standard.
Il regarda d'un air interrogateur les gardes nobles. Némès et ses frères et sœurs lui rendirent son regard sans faire de commentaire. Le commandant Solznikov fit un geste d'impuissance.
« Je suis désolé. Nous avons été très occupés depuis 2 semaines par des manœuvres importantes que j'ai organisées, mais si quelqu'un correspondant à ces descriptions passait par notre spatioport...
« Mon commandant, » dit le colonel Vinara, « il y a ces 4 spatiaux en fuite. »«
Nom de Dieu !» pensa Solznikov.
4 spatiaux du Mercantilus ont quitté leur vaisseau sans permission pour échapper à une accusation d'utilisation de drogue illicite. Autant que je m'en souvienne, c'était tous des hommes, sexagénaires, et... »
Il se tourna pour jeter au colonel un regard lourd de sens, lui signifiant de la fermer.
« Nous avons trouvé leur corps dans le gros graisseux, n'est-ce pas, colonel ?»«
3 corps, mon commandant, »
dit Vinara, inconscient des signaux de son supérieur. Il consultait de nouveau sa base de données.
« Un de nos glisseurs est tombé près de Kerouat en batte, et on a envoyé un médic... Ah, le docteur Abne Molina, sur le canal avec un missionnaire pour soigner l'équipage blessé.
« Qu'est-ce que ça peut bien fiche, colonel ? Ces officiers cherchent une adolescente, un homme d'une 30aine d'années et un androïde. »«
Oui, mon commandant, »
répondit Vinara, surpris, en quittant son persoc des yeux.
Mais le docteur Molina nous a envoyé un message radio disant qu'elle avait soigné, à Lockchild Lamonde, un homme malade venu d'outre-monde. Nous avons supposé qu'il s'agissait du 4e spatial.
Radamante Némès s'avança si rapidement que le commandant tressaillit involontairement. Les mouvements de cette femme mince avaient quelque chose de pas tout à fait humain.
« Où se trouve Lochchai de la Monde ?»
demanda-t-elle. « C'est une bourgade sur les bords du canal, à environ 80 clics au sud d'ici, » répondit Solsnikov. Il se tourna vers le colonel Vinara comme si cette perturbation était sa faute.
« Quand va-t-on amener le prisonnier ici ?»«
Demain matin, mon commandant. »
« Nous avons un glisseur maître prévu qui va chercher l'équipage à Kéroat-Tambat à 0600 et ils feront escale à... »
Le colonel se tut lorsque les quatre officiers de la garde noble pivotèrent sur leurs talons et se dirigèrent vers la porte. Némès ne s'arrêta que pour lancer
« Commandant, dégagez la voie entre ici et ce Lochchai de la Monde. Nous allons prendre notre vaisseau de descente. »
« Oh, ce n'est pas nécessaire !»
s'écria le commandant en vérifiant l'écran de son bureau.
« Ce spatial est sous arrestation et nous sera livré. Hé !»
Les quatre officiers de la garde noble avaient descendu les marches de son bureau et traversaient la piste d'envol. Solsnikov se précipita sur le terrain d'atterrissage et leur cria
« Les vaisseaux de descente n'ont pas le droit d'opérer dans l'atmosphère, sauf pour atterrir à Bombassino. Hé ! Nous allons envoyer un glisseur. Hé ! Ce spatial n'est sûrement pas l'un de vos... » « Il est bien gardé ! Hé ! »
Aucun des quatre gardes nobles ne jeta un regard en arrière lorsqu'ils atteignirent leur vaisseau, lui ordonnèrent de morfler des marches et disparurent à l'intérieur. Des sirènes se déclenchèrent et le personnel courut vers les abris tandis que le lourd vaisseau de descente se soulevait sur ses propulseurs, passait en mode M et accélérait pour traverser le périmètre du spatioport.
« Bon Dieu de merde ! »
chuchota le commandant Solsnikov.
« Pardon, mon commandant ?»
demanda le colonel Vinara. Solsnikov lui lança un regard de colère qui aurait fait fondre du plomb.
« Faites décoller immédiatement deux glisseurs de combat. Non, plutôt trois. Embarquez une escouade de marines dans chaque véhicule. C'est notre territoire et je ne veux pas que ces vantards anémiques de la garde noble viennent foutre le désordre ici sans notre autorisation. » « Je veux que les glisseurs arrivent les premiers et que ce foutu spatial soit emmené en prison, dans notre prison. Même si pour cela, il faut foutre un bec de lièvre à tous les indigènes de l'hélice du spectre entre ici et Lochchai de la Monde. Pigé, colonel !»
Vinara se contenta de regarder fixement son commandant.
« Exécution !»
cria le commandant Solsnikov. Le colonel Vinara passa à l'action.